Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est très connu, qui s'appelle Peggy Frey. Elle est journaliste de mode et je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui dans mon podcast et même chez moi. Bonjour Peggy.
Salut Adrien.
Pour commencer, c'est la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu pourrais te présenter ?
Alors, question toute simple, hein, mais un peu piège quand même, tu commences fort. Ouais. Alors, je m'appelle Peggy, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants et je suis journaliste. En tout cas, j'étais journaliste dans la presse écrite pendant les 20 dernières années, les 18 plutôt. Et maintenant, je sais pas trop comment me définir. Je sais pas. Je pense que je suis une social journaliste.
Tu vois social ce que journaliste. C'est non, pas du tout.
Ouais, moi non plus.
C'est quoi
mais en fait, non, mais je continue mon métier de journaliste, mais beaucoup sur Instagram.
D'accord. Donc t'es voilà. Une Instagrammeuse.
Alors, ça ne porte pas de nom.
Ouais. Cette Instagrammeuse, influenceuse, non, c'est pas ça.
Non, alors. Instagrammeuse, ouais, sans doute, parce que c'est devenu mon principal terrain de jeu. Mais influenceuse, je pense. Enfin, je me définis pas comme ça parce que j'aime pas trop. Je pense pas influencer les gens. Je préfère dire que je partage. C'est-à-dire que je partage avec eux les choses que je vois, les choses que j'entends, les choses que j'aime. Après, si ça les influence ou si ça les influence pas, je m'en moque. C'est pas mon truc. Mais moi, j'adore partager ce que je vois, ce que je rencontre, ce que j'entends, etc. Donc, influenceuse, je sais pas. Mais journaliste, je pense encore oui. Parce que j'ai gardé mon âme de curieuse et de creuseuse, je ne sais pas comment on dit.
D'investigatrice.
Ouais, voilà, de journaliste, mais en tout cas, plus dans la presse écrite.
D'accord. Alors, on va revenir quand même sur tout ton parcours avant de creuser cette nouvelle vie, ce nouveau métier, enfin qui n'est pas un nouveau métier d'ailleurs, mais d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né, qu'est-ce que faisaient tes parents, qu'est-ce qui t'a amené au journalisme ?
Alors. Mais tu me poses 6 questions en une question.
Mais ça, c'est ma spécialité.
Ouais, mais ça,
hein,
je le fais aussi beaucoup. C'est très relou, d'ailleurs. Je vais arrêter de le faire parce que je me rends compte que quand on répond, ça devient relou. Alors, attends, je vais essayer de faire dans l'ordre. Tu m'as dit quoi en premier ? Où j'ai grandi ?
Où est-ce que t'es
alors,
né ? Où est-ce que t'es grandi ?
J'ai grandi dans là où je suis aujourd'hui, en fait, dans un petit village à côté de Reims, dans la montagne de Reims. Qui s'appelait Chigny-les-Roses. J'ai adoré cette vie, j'ai adoré mon enfance et mon adolescence là-bas. C'était génial. J'ai eu une enfance et une adolescence canon. Je peux pas être un peu le pays des bisounours, avec des parents super, très à l'écoute, pas de sujet tabou à la maison, très aimant. J'ai reçu beaucoup d'amour. Voilà.
Ça, c'est pas mal quand même. Et pour commencer, c'est un bon socle.
Ouais, exactement. Et c'est ce que j'allais te dire. Je me rends compte en grandissant, je ne m'en rendais pas compte sur le coup, que tout cet amour que j'ai reçu, ça me donne un pilier et un socle. Et ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Et ça continue à me porter aujourd'hui énormément. Et ça, je serais toujours très reconnaissante et très. Très touchée et très, je me sens chanceuse d'avoir reçu autant d'amour de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents. Enfin, j'ai vraiment eu une jusqu'à mes 20 ans un cocon, une sorte de petit cocon très dans lequel je me sentais très bien et qui m'a beaucoup portée et qui, je pense, me porte encore aujourd'hui. Les études, c'est ça, tu m'as pas non.
Ouais, les études. Ils faisaient quoi tes parents ?
Alors, ma maman ne travaillait pas. Elle s'occupait de ses 3 enfants et mon papa c'était un entrepreneur. Donc, il était un coup dans l'immobilier, un coup dans le champagne. Enfin, c'était un peu un touche-à-tout avec une âme d'entrepreneur. Voilà.
D'accord.
Et c'était quelqu'un de très très chaleureux et très dans le contact et très... Enfin, c'était une belle personne. Mmh. Très belle personne. Mes études...
Mais, et grandir... t'étais en pleine nature, en fait. Ouais. Parce que c'est un village. Ouais, ouais, il y a quoi,
c'était
il y a
un
des
tout
vignobles,
petit village
etc. autour.
Dans les vignes.
D'accord.
Ouais,
ouais, donc
ouais.
Le kiff total.
Le kiff total. Alors, toutes mes copines étaient à Reims, étaient en ville. Et souvent, moi, du coup, j'étais un peu... Tu sais, j'étais à 20 minutes de voiture et tout.
Tu
donc
prenais
c'était...
le bus, quoi.
Bah, il n'y avait même pas de bus. Mais en fait, j'étais assez casanière, chose que je suis encore aujourd'hui. Mmh. J'aime bien être chez moi, les week-ends, je ne bouge pas, etc. Et ça m'allait bien, en fait, d'avoir comme excuse d'être à la campagne pour ne pas aller en ville,
pour pas être obligée,
en ville le week-end, dans les bars et tout ça. Du coup, j'étais un peu en retrait de tout ça. Et je te dis, c'était vraiment comme un cocon, quoi.
Et j'étais... tu faisais quoi?
Ah bah j'étais, on était vraiment en pleine campagne, donc j'étais dehors.
C'est quoi, ces cabanes
Ouais, des cabanes, on avait des motos, donc on faisait de la moto, on avait des animaux, un potager, enfin, la vie simple quoi, mais,
bah ouais,
mais
the simple
cool.
Life, ouais.
Mais cool, ouais, ouais exactement, ouais. Mais très chouette, très chouette.
Et tu lisais beaucoup, enfin, parce que j'essaie de
savoir d'où vient
le journalisme, ouais.
Mmh. Ouais, alors, oui, je lisais beaucoup, mais pas plus qu'une autre, j'ai fait un bac littéraire. Mmh. J'étais pas du tout matheuse, je galérais comme une folle. Donc j'ai fait un bac littéraire, je lisais pas mal, j'adorais ça. Mais le journalisme, c'est venu après. C'est venu. J'ai passé mon bac à Reims, et puis très vite, je suis partie à Strasbourg retrouver mon grand frère qui faisait du droit à Strasbourg. Et mon grand frère, c'était un peu mon idole, tu vois. Il avait 3 ans de plus que moi et tout. Je voulais vraiment marcher dans ses pas, tu vois. C'était un peu Dieu sur Terre. Et j'avais un petit frère avec lequel j'ai 11 ans d'écart. Et lui, c'était mon bébé. Enfin, j'étais entre les deux, tu vois. C'était chou. Et j'ai retrouvé Antoine. J'ai fait du droit. Et je me suis rendu compte au bout de 3 mois que c'était pas du tout fait pour moi. Qu'il fallait être très structuré, chose que je ne suis pas du tout. Fallait être organisé, structurer tes idées, etc. Faire des plans grand A, du petit B, du petit C. Enfin, je me suis dit, oh là 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 là, ça va pas le faire. Et je me suis inscrite en LEA. J'ai adoré. Et je me suis dit, je vais devenir traductrice de bouquins. J'étais bien, je me disais c'est bien, c'est cool, t'es le nez dans tes dictionnaires, t'es peinard chez toi, tu vois, petite souris, ça m'allait bien. Et puis, quand j'ai eu 18 ou 19 ans, donc j'étais à Strasbourg, et mon grand frère, qui est aussi assez entrepreneur, a monté un journal étudiant qui s'appelait Le Malin. Et il est venu me voir et il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de choper la rubrique littéraire du journal ?» Donc j'ai tout de suite dit oui. Et puis, on était maquis à l'époque avec la librairie principale de Strasbourg. Et chaque mois, t'avais des écrivains qui venaient et qui donnaient des petites conférences pour présenter leurs livres. Donc c'est comme ça que j'ai interviewé d'Ormesson, enfin plein d'écrivains qui sont passés. J'ai fait mes premières interviews comme ça et je me suis dit oh,
c'est pas mal ce truc,
mais c'est vachement bien en fait. Alors non seulement donc tu fais un métier où tu t'éclates, parce que moi j'adorais lire des bouquins, je me suis rendu compte que j'adorais poser des questions, m'intéresser à l'autre et puis après à écrire. Donc j'étais là waouh, mais c'est un peu le kiff en fait ce métier. Et voilà comment le journalisme est venu.
Trop bien.
Donc, tu vois, c'est pas venu tout de suite, le journalisme. Au début, quand j'étais petite, mon père me disait toujours « Toi, plus tard, t'auras une papeterie ». J'étais fan de... Je collectionnais les gommes, les carnets, les crayons, toutes ces petites...
Mais c'est un truc de fille, ça, non?
Ouais, mais
toi, c'était puissance 10.
Ah, mais j'adorais ça. Mais encore aujourd'hui, tu me mets dans une papeterie, je peux y passer 2 heures à toucher, renifler, machin, sentir le papier. Et Pia est pareil, ma fille est pareil. Et puis finalement, non, je me suis dirigée vers le journalisme.
D'accord. Et donc, LEA, tu finis LEA ?
Je finis LEA, je fais une licence d'LEA. Et puis, je me destinais à faire une école de journalisme à Paris qui s'appelait le QEJ. Et puis, est arrivé un truc qui m'a sorti de mon monde des bisounours et qui a changé énormément de choses dans ma vie et dans la personne que j'étais, même dans mon caractère et tout. Mon père tombe malade. Et ça a été très vite. Il a un cancer foudroyant et il part en 2 mois. En 2 mois de temps, ça a été très, très vite. Donc là, mes plans à Strasbourg sautent. Je me dis qu'avec mon grand frère, on se dit qu'il faut qu'on rentre pour être plus proche de maman et de mon petit frère Franklin, qui à l'époque avait 9 ans.
Ah ouais.
donc très jeune. Et puis Strasbourg, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas le TGV, donc c'était 4 heures de voiture, c'était, ouais, c'était galère, tu vois, faire Strasbourg-Rhin, c'était
même
galère.
Même le week-end, c'était compliqué.
Voilà, tu rentrais pas comme ça un week-end, c'était pas... Donc, je suis venue m'installer à Paris en me disant, bah, ça sera beaucoup plus proche de Reims, Paris-Reims. C'était à l'époque 1h30 de train, c'était vachement plus faisable. Et voilà comment je me suis retrouvée à Paris, à faire une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, qui n'est pas la meilleure école de journalisme au monde.
On les salue quand même.
Mais on les salue, oui, je me suis dit, je dis une bêtise. Mais non, mais en fait, voilà, ouais, mais c'est comme ça. Mais c'était une super école parce que ça m'a permis de faire des stages. J'ai fait beaucoup de stages et c'est comme ça, en faisant plein de stages, que j'ai réussi à augmenter un petit peu mon réseau, à faire mes premiers pas dans les rédactions et tout. Et voilà, donc j'ai surtout utilisé cette école-là pour faire des stages.
Très bien. Merci beaucoup. Et les premiers stages, d'ailleurs, comment tu les obtiens? Parce que, enfin, moi, j'ai toujours entendu dire, okay, journaliste, enfin, c'est complètement bouché, tu vas pas gagner de thunes. Enfin,
c'est dur. Hein.
C'est dur.
Alors, attends, moi, tout ça, c'était. Donc, j'ai 42 ans. Je te parle de ça, c'était il y a 18 ans, 18, 19 ans. Donc, c'était peut-être un tout petit peu plus simple que ça ne l'est aujourd'hui. Ouais. Le premier stage que j'ai eu, c'était où d'ailleurs ? Ah, c'était dans un magazine de déco, d'art de vivre, qui s'appelait, tu sais, il y avait toute une série, c'était côté Est, côté Ouest, oui. côté Sud. Et j'ai obtenu un stage à côté Est, parce qu'une copine de maman connaissait quelqu'un là-bas. Tu sais, c'est souvent comme ça, hein, c'est souvent une copine de copine d'une copine qui t'obtient un premier rendez-vous. Donc j'ai eu un premier rendez-vous, et puis elle m'a dit, bah, justement, ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un cet été. Donc j'ai fait mon premier stage l'été, et puis ils m'ont gardé 6 mois, et puis petit à petit, dans ces mêmes bureaux, il y avait une autre rédaction, un magazine féminin qui s'appelait Atmosphère. Je sais pas si tu te souviens. Bon, j'ai commencé à bosser pour Atmosphère. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens dans des petits déjeuners de presse. Tu rencontres des gens. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à piger pour pas mal de titres, dont à l'époque, Gala. Où j'ai passé où j'ai fait beaucoup de piches cuisine. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis bref, Madame Figaro est arrivée dans mes piges et je suis restée pigiste pour eux un an. Et puis au bout d'un an, ils sont venus me chercher en me disant, voilà, on a besoin de quelqu'un pour bosser dans cette rubrique précise qui était la rubrique du début du journal, qui à l'époque s'appelait le zapping, qui après est devenu le tam-tam, qui après est devenu je ne sais plus quoi aujourd'hui. Enfin, ça a beaucoup évolué. Et voilà comment je suis arrivée embauchée pour Madame Figaro. Et j'avais à l'époque 20... Ben, c'est simple, c'est l'année de mon mariage. 26 ans.
26 ans.
J'avais 26 ans. Okay. Ouais, toute
jeune. Premier CDI, alors ?
Premier CDI à 26 ans. J'étais toute contente. J'étais la fiesta. J'étais là, oh yeah!
C'était le Graal. Hein.
Ah, c'était le Graal. Ouais. C'était le Graal.
Surtout Madame Figaro, c'était quand même, ça avait de la gueule, quoi.
Ouais, ça avait de la gueule. Moi, j'étais contente de me poser un peu, même si j'avais adoré être pigiste, mais je trouvais qu'il y avait plus de sécurité à être embauchée. Et puis, pour être tout à fait sincère, j'ai adoré, mais j'ai assez vite déchanté. Et j'ai pas beaucoup aimé le statut d'employé permanent. Parce que moi, ce que j'adorais dans mon métier et ce que j'aime encore dans mon métier, c'est faire ce que je fais avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, bouger, aller voir les gens. Pour moi, être journaliste, c'est être dehors et c'est fouiner un peu. Et là, j'étais le cul assis sur ma chaise en permanence à devoir faire des papiers. J'avais une pseudo-chef à l'époque qui me laissait pas la totale liberté que je voulais avoir. Donc, quand je suis restée comme ça 4 ans, je crois. Et puis, j'avais avec mon mari, Pia est arrivée, notre fille est arrivée. Et on s'était toujours dit qu'on retournerait vivre à la campagne, parce que lui avait été élevé à la campagne aussi. Et on s'était dit, on restera pas toute notre vie à Paris. Donc là, ça faisait à peu près 10 ans que j'étais... parce que là, je te parle, donc 26, 27, ouais, donc j'ai quitté Paris, j'avais 30 ans. Donc, j'ai fait à peu près 10 ans à Paris, de mes 20 ans à mes 30 ans. Et là, je me suis dit, bon, ils ont installé le TGV entre Reims et Paris. Il y a moyen de continuer à bosser à Paris. C'est 45 minutes de TGV, c'est pas la mort.
Il y a des gens qui le font tous les jours.
Il y a des gens qui le font tous les jours. Mais moi, je voulais pas justement le faire tous les jours. Et j'ai, je pense inconsciemment, utilisé ce prétexte-là pour aller voir ma boss et lui donner ma démission en lui disant, voilà.
Je me casse. Ouais. Enfin, je vais vivre à la campagne.
Alors, j'ai pas dit je me casse comme ça. Je lui ai dit, voilà, écoute, je me casse. C'était sympa de bosser avec toi, mais non, je lui ai dit que j'avais besoin d'un changement de vie. Elle savait, ma boss, c'est une femme qui s'appelle Anne-Florence Schmitt, qui est une femme très intelligente et qui savait de toute façon que j'étais pas très heureuse là où j'étais. Et je voyais que la situation n'évoluait pas beaucoup et que j'étais enfermée dans cette rubrique et que moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire des grands papiers et tout ça. Et elle m'a dit, écoute Peggy, je te propose quelque chose, tu repasses en pigiste, mais tu gardes ton bureau et je te passe dans la partie magazine. Donc en fait, je me souviens du jour où j'ai donné ma démission, j'avais la main qui tremblait parce qu'il y avait une partie de moi qui allait quand même vers l'inconnu en me disant, oh, mais putain Peggy, ça se trouve, tu fais l'erreur de ta vie, tu retrouveras jamais des piges ailleurs. Enfin tu vois, il se passait beaucoup de choses dans ma tête, mais en même temps, j'avais un truc en moi qui me disait, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu t'en sortiras jamais de cette rubrique. Donc j'ai accepté. J'ai donc gardé mon poste. Quand elle disait garder mon poste, c'est-à-dire garder mon bureau physique avec mon ordinateur, ma ligne fixe, etc. Et on n'était pas beaucoup de pigistes à avoir ce traitement-là. Donc j'étais vraiment contente. D'ailleurs, je la remercie encore aujourd'hui. Et je suis restée comme ça, et ben pratiquement 10 ans, tu vois, à faire mes allers-retours 2 ou 3 fois par semaine. Et ma boss de l'époque m'a donné suffisamment de boulot pour que j'aie même pas besoin d'aller chercher des piges ailleurs. Donc en fait, là, j'ai attaqué 10 ans. Génial. J'ai vraiment fait le métier que je voulais faire, c'est-à-dire aller sur le terrain, faire des enquêtes, interviewer des gens, voyager. J'ai vraiment adoré, quoi. Voilà. Donc j'ai adoré cette période.
Et quand tu étais à l'école de journalisme, la fameuse t'aspirais à quoi? T'aspirais parce que c'était quoi le image d'Épinal de journalisme?
Je savais pas trop.
T'imaginais pas grand reporter de guerre
Non, alors pas du tout, parce que je suis pas du tout téméraire comme fille. Hein. Moi, je suis une flippette de chez Flippette. Ouais. Je ne prends plus le métro passé 20h. Enfin, tu vois, j'exagère à peine, mais toutes les nanas qui me connaissent dans le milieu savent très bien qu'il faut me raccompagner en taxi, je rentre pas toute seule. Enfin, bref, je suis un peu flippette. Donc, reportage de guerre, jamais de la vie. Même si j'adore les lire et les regarder, c'est pas pour moi. Je pensais pas non plus à la presse féminine. Je sais pas pourquoi. Je savais juste que je voulais interviewer et rencontrer des gens. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'adorais poser des questions, mais peu importe à qui, en fait. Peu importe la thématique, peu importe à qui. Moi, je croise même quelqu'un dans la rue qui me parle et je me mets à lui poser des questions. Je suis très curieuse, donc j'avais pas vraiment une idée précise. J'avais pas vraiment une journaliste dont j'étais complètement fan. Tu vois, aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, des émissions d'Anne Sinclair avec du recul, je me dis, putain, waouh, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, j'avais pas cette maturité-là pour me dire waouh. Donc, j'avançais au jour le jour et je me laissais porter par... tu vois, un de mes premiers stages, c'était Nouvelle Obs. J'avais rien à faire au Nouvelle Obs, mais j'ai adoré.
Mais ça avait de la gueule quand même.
Mais j'ai adoré. J'étais avec un journaliste qui s'appelait Alain Chouffant. Et à l'époque, il enquêtait sur ce fait divers « Omar m'a tué ».
Oui.
Mais j'ai adoré. Mais je sais même pas encore comment je m'étais retrouvée au Nouvelle Obs. Par Pascal Bruckner, que j'avais interviewé à Strasbourg quand il était venu pour un bouquin, et j'avais gardé son contact, et je lui avais dit, j'aimerais bien venir faire un stage à Paris, un de ces quatre. Quand je me suis installée à Paris, je l'ai rappelé, et il m'a dit, écoute, j'ai un pote qui bosse au Nouvel Obs, ça c'était un autre été, vas-y. Et tu vois, je me suis laissée porter tranquillement, et sans vraiment savoir où ça allait me mener. Et puis, quand le Madame Figaro a voulu m'embaucher, je me suis dit, pourquoi pas, et puis voilà.
Ouais.
J'avais pas de plan, en fait.
T'as un plan maintenant?
Non, alors pas du tout. Non.
On va y revenir.
Non, toujours pas. Je n'ai pas de plan. J'essaye d'écouter ce que me disait souvent mon père, sans parler de ma profession ni de quoi que ce soit, puisque quand il est parti, j'avais que 20 ans et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais le conseil qu'il me donnait tout le temps dans toutes les situations où j'étais soucieuse, c'était « Peggy, écoute ton cœur et apprends à écouter ton instinct.
» Et comment tu fais ça?
Tu vois, typiquement, mon départ pour aller m'installer à la campagne,
tu sentais la boule.
En fait, il y a une boule qui monte, qui monte, qui monte. Et au bout d'un moment, la boule, elle monte tellement que je me dis, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai quitté le journal. J'ai quitté le journal il y a 1 an et demi. Cette décision, Adrien, j'ai mis 1 an pour la prendre.
Ouais.
Un an. Ça a monté en moi pendant un an. Parce que je sentais que j'étais plus à ma place. Mais en même temps, je me disais, tu sais, tu fais une sorte de balance. Tu dis, oui, mais Peggy, en même temps, journaliste, c'est chaud en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de place. Tu vois, tu es peut-être bien à la outée. Et puis pendant un an, je me suis posé des questions. Je me réveillais un matin, je me disais, allez, c'est bon, je pars. Je me réveillais le lendemain matin, je me disais, non, n'importe quoi, tu ne peux pas faire ça. Tu vas te retrouver sur le carreau. Et puis c'est monté. Et puis un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais non, mais en fait, ça y est, c'est bon, il faut que je parte.
Et cette décision, est-ce qu'il faut attendre un an avant de la prendre ou... Ouais, c'est le cheminement normal, en fait.
Moi, c'est le mien. C'est mon cheminement. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus impulsives que moi et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus frileuses et qui partent pas.
T'as déjà pris des mauvaises décisions ?
Professionnellement parlant, tu veux dire ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que je me suis déjà plantée, quoi ?
Ouais.
Bah, tu sais, peut-être que je kiffe ce que je fais en ce moment, mais peut-être que je me plante. Tu vois, je sais pas. Peut-être que j'ai pris la mauvaise... Je pense pas avoir pris la mauvaise décision, mais l'avenir me la... Enfin, c'est récent encore, tu sais, ça fait un an et demi. Mais sinon, peut-être que j'aurais pas dû... tu vois, quand on m'a embauchée à 26 ans, j'étais toute contente, mais avec du recul, j'aurais peut-être dû rester pigiste un petit peu plus longtemps et voir où ça m'aurait emmené, peut-être. Je sais pas. Je me suis jamais posé cette question. T'étais chiant, hein, avec tes questions.
Je suis relou.
Ouais.
Juste pour revenir sur les pratiquement 10 ans au Madame Figaro, c'était quoi les thématiques, les papiers qu'on te commandait?
Alors,
etc.
J'étais dans la partie magazine.
Ouais.
Donc, la partie magazine, pour qu'on comprenne bien, c'est la partie qui suit toutes les rubriques du début. Donc, t'as le début du journal, c'est plein de rubriques. Tac, 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 tac. T'as au moins 20 pages de rubriques. Après, t'as la partie magazine où c'est dédié au...
C'est quoi une rubrique?
Une rubrique, bah, t'as la rubrique dans laquelle je bossais, Tam-Tam. Donc, c'est 3 pages où t'avais plein de petites infos buzz, tu sais, de 4 lignes. Après, la page d'après, t'avais une rubrique qui s'appelait la boîte à secrets. Donc, t'allais interviewer quelqu'un qui montrait ses 6 objets fétiches qu'il a chez lui. C'est des trucs qui font une page, généralement, tu vois. C'est des petites rubriques comme ça.
Mais c'est des trucs qui reviennent à chaque fois, quoi.
Ouais, c'est des rubriques qui, chaque semaine, elles reviennent. Et la partie magazine, c'est des reportages, des interviews, des papiers qui font parfois des enquêtes, qui font parfois 5 ou 6 pages. Enfin, à l'époque, ça faisait 5 ou 6 pages. Maintenant,
c'est
ça fait beaucoup
énorme.
Moins. Ouais. Mais c'était bien.
Bah, c'était beaucoup plus creusé, quoi.
Bah oui, c'était bien. On avait plus de place, on pouvait interviewer plus de monde, c'était riche.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Allez, vas-y.
Bah non, mais c'était ce qui s'est passé entre temps, mais il s'est passé énormément de choses.
Ouais,
non,
je sais bien, mais
il s'est passé plein de choses. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a moins de place pour s'exprimer parce que la presse est liée aux annonceurs. Il faut savoir qu'un magazine ne vit pas sans annonceurs. On ne vit pas grâce à l'abonnement. C'est impossible. Il n'y a pas assez d'abonnements, surtout en ce moment. Enfin. Donc, on vit grâce à l'annonceur qui va venir acheter 1, 2, 10, 15 pages de pub. Et ça va permettre de faire en sorte que le journal soit plus épais ou moins épais. D'ailleurs, l'été, bizarrement, il n'y a pas de pub. Les journaux sont tout fins. Je ne sais pas si tu as remarqué, les journaux féminins. Enfin, oui. Tu lis certainement pas de féminin, mais
si.
Il y a très peu de pages. Donc, on est lié à ça. Donc, il y a encore 10 ans, il y avait beaucoup d'annonceurs. Donc, les magazines étaient plus épais. Donc, tu pouvais te permettre de faire une enquête qui fasse parfois 6 pages. Mais aujourd'hui, ça devient très, très rare parce qu'en fait, il y a moins d'annonceurs, donc moins de pages. C'est devenu compliqué, la presse féminine aujourd'hui.
On va y revenir plus tard.
Ouais, bah, j'imagine, ça y est, triturer sur la presse féminine, ça va être l'horreur.
Non, mais alors, les sujets... Explique-moi.
J'ai le droit de boire un petit coup.
Ouais, vas-y, okay. Un petit coup. Les sujets qui t'ont... qu'on te commandait et qui t'ont fait le plus kiffer, parle-nous un petit peu. Et surtout, moi, j'aimerais que tu nous fasses une petite leçon de journalisme, parce que moi, genre, je suis pas journaliste et je pense que j'essaie de préparer.
Tu es journaliste là.
J'essaie de préparer un peu mes interviews parfois.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que je m'y prends très très mal parce que j'ai pas de méthodologie. Et,
non, mais moi non plus.
Et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu la tienne déjà.
C'est pas moi qui vais te donner de la méthodologie. Alors déjà, donc quand je suis arrivée dans cette partie magazine, je faisais à la fois de la société.
Ouais.
Des sujets sociétés sur les femmes en entreprise. Je me souviens, un de mes premiers papiers, c'était ma meilleure amie et mon business partner. C'est-à-dire, c'était des potes, copines, qui montaient des boîtes ensemble. Donc ça, c'était des sujets sociétés. Petit à petit, j'ai fait de plus en plus de mode aussi. Un de mes premiers sujets mode où je me suis éclatée, c'était... Alors là, j'ai découvert un monde hallucinant. C'était Anne-Florence m'a confié un truc sur... les défilés haute couture. Donc, les premiers défilés que j'ai faits étaient des défilés haute couture, ce qui est encore un truc à part par rapport au prêt-à-porter. Alors là, j'ai halluciné. Je me souviens, j'étais allée là-bas au défilé haute couture de Dior, Chanel, tout ça. J'étais avec mes Converse et un pantalon baggy. Et je me disais, mais elles sont toutes super bien sapées. Et toi, t'arrives en mode cool. Enfin bref, c'était très, très drôle. Mais c'est un monde que j'ai appris à connaître déjà, ouais. Parce que c'est très codifié. Mmh. Et à aimer parce que c'est un monde... Alors, tout n'est pas rose dans ce monde-là. Il y a aussi beaucoup de trucs à jeter. C'est gravite tout un petit milieu qui n'est pas forcément très bienveillant. Mmh. Mais le fond de ce monde-là, c'est-à-dire la créativité, tu sais très bien, la couture, c'est magique en fait.
C'est ouf, ouais.
C'est magique. Quand tu interviews une première d'atelier, moi je me souviens la première fois que j'ai interviewé des premières d'atelier et que j'ai visité des ateliers de grandes maisons, mais j'ai pris une claque énorme. Énorme. Mmh. Mais c'est un monde à part. Ça j'ai adoré, mais ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est aller rencontrer des personnes en fait, et ça je l'ai compris après aussi, qui m'inspirent énormément. En fait, j'aime bien aller puiser de l'inspiration et j'aime bien aller rencontrer des gens qui m'inspirent. Et aujourd'hui, ce que je fais via Instagram, c'est que je voudrais l'inspiration que j'arrive à puiser chez les uns ou chez les autres, je voudrais la donner aux autres pour que eux soient aussi inspirés et deviennent peut-être acteurs de leur choix, de leur vie. Enfin, toi, les inspire dans leur vie. Mmh. Et une des femmes, il y en a pas mal qui m'ont inspirée, mais je me souviens, je suis allée interviewer à Londres Nathalie Massenet, qui à l'époque avait créé Net-à-Porter. Écoute.
Oh, t'as eu de la chance, toi.
Ah non, mais écoute, mais j'ai vécu un truc. Mais donc, je me revois arriver dans les bureaux.
Raconte.
Avec des bureaux de dingue. Un peu à l'extérieur de Londres, dans une banlieue proche, mais des bureaux tout noirs et blancs, ultra design, avec des petits... Alors, je te parle de ça, c'était il y a 8 ans. Mmh. Ouais, il y a 8 ans. 7-8 ans, donc Nathalie Massenet était encore là-bas parce qu'elle n'y est plus, des bureaux partout, tu sais, des alcôves partout, avec des gars partout, avec leurs ordinateurs sur leurs genoux, des estrades où tout le monde se retrouvait, enfin, il y avait aujourd'hui tout le monde fait ça, mais à l'époque,
vous voyez les choses en grand, quoi.
C'était nouveau, et surtout, mais Nathalie Massenet, mais je me suis assise pour l'interviewer, et cette femme est juste hallucinante. Elle m'a raconté comment elle a monté Net-à-Porter de rien, mais de rien. Mmh. Elle était à faire du porte-à-porte auprès des marques. Alors, elle a été aidée soit par son mari, je crois, qui financièrement l'a aidée au début, mais personne ne croyait à l'époque à la vente de luxe sur Internet. Mmh. Et elle me racontait qu'elle était enceinte, qu'elle allait chercher toutes les marques petit à petit, etc., et que les marques ont commencé à venir. Mais j'ai littéralement bu les paroles de cette femme, et je me souviens, je suis repartie. Je me suis assise dans l'Eurostar du retour. Je me suis assise comme ça dans mon fauteuil. J'ai croisé les bras. Et pendant les 2h30 d'Eurostar, j'avais les yeux dans le vague. Et je n'en revenais pas de la claque que je venais de prendre en écoutant cette femme, en fait. Elle m'a...
Mais qu'est-ce qu'elle avait ?
Elle était... Mais brillante, brillante. Tu sentais que ça cogitait super vite. Et puis, l'idée que cette femme, partie de rien... Pas de rien... En tout cas, son concept,
pas grand chose,
tu vois, partant de rien, avait réussi à bâtir l'empire que Net-à-Porter a réussi à être et à s'imposer. Bon, aujourd'hui, il y a des concurrents, mais à l'époque, mais c'était bluffant, en fait. Mmh. C'était bluffant. Et puis, elle m'a... je l'ai trouvée... Alors, il y a des gens qui la trouvent pas sympa. Moi, je l'ai trouvée hyper sympa. Elle a été hyper ouverte. Et ce que j'ai adoré chez elle, c'est que j'étais rien, moi. D'ailleurs, je suis rien. Enfin, je veux dire... Je vais l'interviewer et dès que je la recroisais sur un défilé, je l'ai recroisée beaucoup, Nathalie, et elle est toujours venue
te dire bonjour.
Me dire bonjour, prendre de mes nouvelles, me suivre sur Instagram.
C'est vrai, c'est ouf.
Et quand j'ai quitté le journal, c'est parce que je lui ai envoyé un message et elle m'a donné des conseils et elle m'a dit « Mais Peggy, t'aurais dû partir depuis longtemps ». Et j'ai appris, et c'est ça ce que je voulais te dire aussi tout à l'heure, que j'ai pas eu le temps de te dire, parce que tu me poses tellement de questions que j'arrive pas à suivre mon fil.
Excuse-moi.
C'est que j'ai appris aussi, la décision que j'ai prise de quitter ce journal, c'est que j'ai écouté les signes que j'avais autour de moi. Et ça, j'ai appris récemment. C'est récent. C'est plus jeune, je ne voyais pas les signes. Ouais, je voyais rien du tout. Mais j'ai appris à écouter les signes, et des signes, j'en ai eu pas mal. Et Nathalie, je l'ai écoutée. J'ai beaucoup parlé avec Tori Burch, qui est une designeuse américaine que j'adore. C'est pareil, qui a monté son truc. Et Tori, je suis allée la voir quand j'étais à New York pour les Fashion Week, et je suis allée la voir avant de partir du journal en lui disant, voilà, je me pose des questions, j'ai envie de faire ça, je sens qu'il y a un truc, je sens que je suis à un croisement, et elle m'a dit, mais elle m'a encouragée à partir. Et il y en a plusieurs personnes comme ça qui m'ont dit, mais Peggy, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Et ça m'a porté, et j'ai écouté. Et ces signes-là, il y a quelques années, je les aurais pas écoutés. Pourquoi je te raconte ça? Est-ce que je te racontais
Nathalie? Non, parce que Nathalie... Mais j'ai envie de te poser une question là-dessus. C'est comment est-ce qu'on apprend? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui... Et ce que tu dis là, c'est sans doute du chinois pour pas mal de gens. Parce que écouter les signaux faibles, moi je le comprends. Et j'essaye de les voir, de les sentir. Mais ça demande quand même un truc, quoi. Comment on fait pour écouter? Pour s'écouter, pour écouter son cœur déjà et voir les signaux faibles?
Il faut être, il faut ouvrir tes petites antennes et être à l'écoute et t'ouvrir à l'autre. Parce que si tu ne t'ouvres pas à l'autre, déjà l'autre ne t'envoie pas de signes. Donc déjà, il faut aller chercher les signes. Donc moi, je suis très ouverte. Je sais pas pourquoi, mais je parle avec tout le monde. Tu le vois, ça se voit, je pense, au travers de mon Instagram. J'ai pas trop de tabous. Et du coup, quand tu n'as pas de tabou et quand tu n'es pas fermé et quand tu n'es pas sur la réserve, les gens en face de toi sont pareils. Et du coup, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient peut-être pas s'ils sentaient que tu étais...
Un peu sous la réserve.
Exactement. Ouais. Et donc, je pense que ça se travaille. Évidemment, ça se travaille. C'est aussi une question de tempérament, je pense.
Toi, tu l'as toujours eu? Non.
Non. Non, j'ai pas toujours été comme ça. Non, j'ai pas toujours. Non, mais je te dis, je pense que ce qui a beaucoup changé mon tempérament et la manière dont je suis aujourd'hui, c'est le drame que j'ai vécu avec mon papa. Je pense que ça a beaucoup, ça m'a énormément marqué, et j'ai compris beaucoup de choses quand il est parti, et ça me porte encore aujourd'hui. Et la chose que j'ai compris et qui me sert beaucoup aujourd'hui dans mon métier, c'est que rien n'est vraiment grave tant que tu ne perds pas quelqu'un que tu as autant aimé. Les petits soucis du quotidien,
ouais, c'est rien.
C'est que dalle, en fait. Alors, on en a, hein, mais c'est vraiment que dalle. Et ça, c'est con, ça paraît tout con à dire. Mais quand tu as compris ce truc-là, moi, j'ai pas peur du ridicule, par exemple. J'ai pas peur du regard de l'autre.
T'en as rien à foutre.
Rien à cirer. Moi, je peux faire des âneries au premier rang d'un défilé, aller interviewer machin, alors que ça se fait pas, ça me gêne pas. Et ça, je pense que ça m'a aidé dans ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a aidé à aller voir des gens, oser leur poser des questions. Tu vois, si j'avais été timorée, jamais j'aurais téléphoné à Nathalie pour avoir son avis sur si je devais partir ou pas. Je l'aurais pas fait.
Enfin, ouais, c'est vrai que c'est couillu, quoi. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais, non, c'est osé de faire ça, quoi.
Je l'aurais pas fait. Mais après tout, Adrien, il y a rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que perdre quelqu'un que j'aime? Moi, en ce moment, j'ai la chance d'avoir tous les gens que j'aime autour de moi. Et c'est une chance parce que en pleine santé et bien. Et je sais qu'il y a une couille qui va arriver, c'est évident. La vie, c'est ça. Donc moi, je profite de ça. Et du coup, rien ne m'arrête. Je ne peux pas t'expliquer.
Mais ça, faut-il vivre un drame pour en prendre conscience?
Moi, je pense que c'est ce drame-là qui me l'a permis.
Parce que c'est souvent qu'on entend ce genre de discours. Souvent. Tiens, je pense, tu vois, à Jacques Mus, il a perdu sa maman, et c'est à ce moment-là qu'il a pris le dessus. Et beaucoup de gens ont besoin d'avoir un drame dans leur vie pour vivre leur seconde vie, quoi. Il y a cet adage là qu'on dit toujours, je me rappelle plus, mais c'est tu vis ta deuxième vie à partir du moment où t'as pris conscience que t'en avais qu'une seule, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est très vrai, ça. D'ailleurs, je l'ai, le bouquin à la maison, ce truc-là. Ouais. C'est très cliché de dire ça, c'est tellement vrai que, tu vois, moi, souvent, je fais des bêtises avec Instagram où je vais interviewer machin ou machin, et souvent, je suis avec Delphine Perrois, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup bossé au journal, et Delphine, elle me dit « Mais comment t'oses faire ça ?» Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Et puis je me suis pris des milliards de vents, Adrien. Mais je m'en fous de me prendre des vents. C'est pas grave de prendre un vent.
Ça fait partie du métier.
Voilà, c'est pas grave. Donc ça, mais après, c'est mon cheminement personnel, je pense, ça.
Et qu'est-ce qui fait que tu attires la sympathie de ces gens-là? Parce que Nathalie, elle n'était pas obligée de décrocher.
Bah, j'en sais rien, je sais pas, figure-toi. Bah, je sais pas, il faudrait lui poser la question.
On va l'appeler.
On va l'appeler. Allez, appelons en direct, appelons un ami. Je m'appelle Nathalie Massenet. Bah, peut-être que j'ose lui parler comme je te parle à toi,
ouais,
ou comme je parle à une pote.
C'est normal, en fait.
Peut-être, voilà,
ouais.
je prends pas de gants, de pincettes pour leur parler. Mm. Et du coup, peut-être que ça les change et qu'ils se disent. Ça, j'en sais rien, je sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui t'ont vraiment beaucoup marqué comme
il y a Jenna Lyons. Jenna Lyons, c'était la, pour ceux qui connaissent pas, c'était la directrice de création de la marque J.Crew aux États-Unis, qui est une marque qui va pas bien en ce moment, mais qui à l'époque était une marque qui cartonnait. C'était une marque qui se vendait par correspondance au début, un peu comme la Redoute en France dans les années 80. Et puis petit à petit, c'est une marque qui s'est vraiment installée. Et Jenna était la directrice de la création. Et pareil, alors Jenna, je l'ai eue... c'était tellement drôle. Jenna, j'étais fan. Mm. Fan, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, je crois. Mais je suivais pas mal de blogs, de blogueuses et tout ça, qui parlaient pas mal de Jenna, de blogueuses américaines et tout. Et Jenna, je rêvais de la rencontrer. Et j'ai profité... d'aller à New York pour faire deux reportages pour le journal, pour Madame Figaro. Et je me suis dit, putain, je suis à New York, il faut que je me démerde pour voir cette fille. Je te laisse imaginer les barrières que j'ai eues pour rencontrer Jenna. Donc, j'ai envoyé un mail à son assistante, pas de réponse, 2 mails, 3 mails, 4 mails, 10 mails, 20 mails.
Ah, tu lâches rien.
Ah, j'ai rien lâché. Et mes mails, ça s'appelait, dans l'intitulé de mon mail, j'avais fait ça. L'assistante, je lui avais dit, écoutez, je suis vraiment désolée, mais en fait, je pense que je vais vous harceler tous les jours. Et tous les jours, j'envoyais un mail. Et dans l'intitulé de mon mail, c'était le projet harcèlement de Jenna 1, 2, 3. 4, 5, je le faisais tous les jours. Et tous les jours, je lui envoyais le même mail. Jusqu'à ce qu'enfin, l'assistante me dise oui. Donc, j'ai fait ça en amont d'aller à New York. Donc, j'ai fait ça peut-être sur 25 jours, tu vois. Tous les jours, elle a reçu un mail. Et puis, je lui ai dit, bon, là, je viens à New York, on y va. Et elle me dit, bon, bah, d'accord, venez rencontrer Jenna. Je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que quelques mois plus tard, ils avaient en tête d'ouvrir une boutique à Paris. Mmh. Et à mon avis, l'assistante s'est dit, bah, c'est peut-être pas mal que Jenna rencontre une journaliste française, tu vois. Mmh. Et j'ai eu mon premier rendez-vous avec Jenna. Et je me souviens, ma
Madame
maman
Figaro,
était venue avec moi.
Ouais.
Non. Ah non, c'était pas pour le Figaro. J'étais allée pour le Madame Figaro pour d'autres reportages. Mmh. Et je suis allée voir Jenna de mon côté pour préparer une éventuelle interview que je ferais.
Pourquoi tu voulais la rencontrer?
Mais parce que cette femme me fascinait. Mmh. Son style me fascinait. La manière dont elle menait J.Crew me fascinait. Parce que J.Crew, c'est, quand tu regardes cette marque, c'est beaucoup de basiques. Mais elle a réussi à les twister. Et à rendre magique une chemise blanche ou en l'associant avec une jupe à paillettes et puis par-dessus tout ça elle allait te coller un manteau vert canard ou bleu canard et tu la regardais et tu étais là, ah ouais, mais en plus ça fonctionne quoi. Et des filles comme ça, il y en a pas beaucoup. Et j'étais très curieuse de la rencontrer et de voir si cette femme qui m'attirait valait le coup. Enfin, je peux t'expliquer, tu vois, j'étais curieuse de la rencontrer.
Est-ce que c'était vraiment du vrai ou du flan?
Voilà, exactement. Et je m'en souviendrai toujours quand j'ai eu ce rendez-vous. Donc, je l'attendais dans son bureau. Elle revenait d'un déjeuner où elle avait déjeuné avec le prince William, qui était de passage à Paris, à Londres, à New York, pardon. Donc, elle arrivait et elle arrive dans son bureau avec une dégaine de maboule, ses grosses lunettes noires et tout. Et elle balance son sac. Elle avait un manteau jeté sur les épaules, tu sais, négligemment. Et là, je la regardais, j'étais là, waouh. Et là, elle s'assoit en face de moi. Et on a parlé, mais je te jure, pendant 2 heures. Elle m'a parlé de sa vie, moi de la mienne. Elle m'a raconté comment elle était arrivée. Elle a fait toute sa carrière là-bas, puisqu'elle a passé là-bas, je crois, 27 ou 28 ans. Donc, elle est arrivée petite stagiaire pour devenir directrice de la création. T'imagines le parcours. Enfin, moi, ça me fascine des gens qui arrivent à monter comme ça, tout en restant bienveillant. Parce que cette fille, et c'est la bienveillance incarnée, c'était pas une bitch, c'était pas... Enfin, je sais pas, cette personnalité m'a fascinée. Et du coup, je me souviens, maman était avec moi, j'avais embarqué maman avec moi dans ce voyage-là. J'avais dit, ah, je pars à New York pour le journal, viens me rejoindre. Et maman était venue me rejoindre et j'ai embarqué maman qui s'est retrouvée avec moi, interviewée de Jenna Lyons.
Ah ouais,
mais oui, je la traînais avec moi partout. Et aujourd'hui, Jenna me demande régulièrement des nouvelles de maman, comment va Mino, tout ça. Enfin, c'est trop rigolo, quoi. Et 6 mois plus tard, J.Crew ouvre en France. Et là, j'ai tanné ma boss, mais Anne-Florence, mais je crois qu'elle m'a détestée pour ça, mais je lui ai dit, Anne-Florence, il faut qu'on fasse une couverture avec Jenna Lyons, il faut qu'on la mette en couverture, cette fille va inspirer énormément de personnes dans sa manière d'être, dans sa manière de saper, dans tout. Je pense que j'ai eu Anne-Florence à l'usure et je la remercie encore aujourd'hui. Et on a fait une cover story avec Jenna et tout un shooting. Donc je suis retournée à New York pour faire mon sujet sur Jenna et le shooting, un shooting mode avec elle. Voilà.
Trop bien.
Et c'était. Mais tu vois des rencontres comme ça. Et ben moi quand je me couche le soir, je me dis mais t'as le métier le plus beau du monde. C'est moi rencontrer des gens. Qui m'inspire et qui me porte et qui mais il y a rien de mieux en fait, c'est génial, moi je me nourris de tout ça en fait. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui avec Instagram, c'est que j'espère réussir à transmettre cette nourriture, enfin tu vois, à transmettre cette inspiration, à la partager avec les gens qui me suivent.
Qu'est-ce que tu demandes aux
je
gens?
Je n'ai pas du tout parlé de méthodologie.
Non, mais on va y venir. Non, mais j'oublie jamais mes questions. on va y revenir. Qu'est-ce que tu poses comme question? Alors, est-ce que c'est peut-être une question de feeling aussi, mais comment est-ce que tu vois justement si c'est du vrai ou du flan? Tu le sens tout de suite?
Tu le sens à la personne. Mais ça se sent. Tu le vois. Ouais. Tu le vois tout de suite, Adrien. Ouais. Mais même toi, tu dois le voir quand tu interviews quelqu'un.
Ouais.
Tu le sens. Ça se sent à la manière d'être de la personne. Tu sens les choses très vite en fait. Et puis je vais te dire, ça se confirme. C'est-à-dire que quelqu'un de chouette, quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un qui garde le contact avec toi, quelqu'un qui t'envoie un petit mot, quelqu'un qui machin. Tu le vois vite hein, quand quelqu'un est très intéressé, juste pour avoir un truc one shot, et puis après t'as zéro nouvelle. Ça se voit. Ça, tu sens les choses. Donc tu le sens quand c'est bullshit. Ne me demande pas par qui j'ai été déçu. Hein.
Par qui t'as été déçu? Non, t'es pas obligé de répondre à cette question.
Eh ben si, je vais te répondre. Tiens. Ah. Non, parce que je pense à quelqu'un, et puis comme elle n'est pas française, c'est pas grave. J'ai été déçue par beaucoup de personnes, en vrai.
C'est vrai?
Oui, en vrai. Ah ouais? En vrai, tu sais, de temps en temps, tu as un énorme gap entre l'idée que tu te fais de quelqu'un et quand tu le rencontres en vrai. Et de temps en temps, je suis repartie de certaines interviews en me disant... Ok, bah génial. Tu vois, hyper déçue, j'étais ok, super. Bon, ben voilà, là tu t'es plantée. Ça m'arrive. Une sur laquelle je me suis plantée, je me faisais une joie de la rencontrer. Et en fait, je l'ai trouvée très distante, pas très généreuse de son temps, pas très généreuse d'elle. C'était Penelope Cruz. Tu vois, je l'avais interviewée pour je sais plus quelle marque. Michael Kors peut-être. Elle était
tu brises mon rêve.
Hein?
Tu brises mon rêve.
C'est vrai? Et ben en fait, cette fille que tu peux imaginer hyper chaleureuse. Et ben, je l'ai trouvée froide. Ouais. Après, je me dis, Peggy, peut-être que tu l'as vue un jour où elle n'était pas dans son assiette.
C'est ça.
Tu vois, on n'est pas tous d'humeur égale. Mais bon, c'est vrai que là, je suis repartie en disant, ouais, bon, bof. Voilà. Mais il y en a d'autres.
Là, tu prends pas trop de risques. Penelope Cruz.
Avec Penelope,
elle ne nous écoutera jamais.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Penelope, si tu nous écoutes.
Penelope, si tu veux venir dans l'appartement d'Adrien.
Avec plaisir.
We're waiting for you.
Ouais. Méthodologie, parlons méthodologie.
Alors, méthodologie, moi j'ai un secret, je te le donne.
Ouais.
Je te le donne.
Vas-y, donne-moi.
Alors, c'est un énorme secret qui ne veut pas divulguer.
D'accord.
Parfois j'ai honte, alors, mais je t'assure que je fais comme ça. Quand je vais interviewer quelqu'un, contrairement à ce que la majorité des journalistes font, je fais zéro recherche. Parce qu'en fait, je te jure, et je vais te dire pourquoi.
Pourquoi ?
Parce que, et je suis sûre que tu vas me dire, ah ben oui, t'as raison. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait des recherches au début, mais en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais trop de recherches sur quelqu'un...
T'as plus envie de le voir.
Non. Oui, peut-être, de temps en temps. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop de réponses à mes questions et que du coup, je perdais la spontanéité dans mes questions parce que j'avais déjà la réponse.
Ouais.
Et trop savoir des choses sur des gens, et ben ça t'empêche parfois de poser la bonne question et de l'amener finalement vers un truc où que t'aurais pas eu. Enfin, tu vois. Donc, je me suis rendu compte que moins je faisais de recherche, et ben plus mes interviews étaient intéressantes.
Mais genre, tu fais rien. Tu y vas les mains dans les poches avec ta curiosité, quoi.
Alors, j'y vais. Ouais, je fais pratiquement rien. C'est-à-dire que je sais ce que fait la personne, mais point barre. Je veux pas savoir son parcours parce que ça va faire partie des questions que je vais lui poser. Et si je sais déjà quel parcours il a eu, Eh ben, je vais pas avoir la même spontanéité dans la façon de poser la question et surtout dans la façon de rebondir sur ce qu'il va me dire. Mmh. Parce que moi-même, je suis là, ouais, bon, ben ça, ok, je le sais déjà, ça, tu vois.
Mmh. Et c'est un secret. Je me demande, est-ce que, en fait, tout le monde ne fait pas ça? Parce que
moi, j'ai beaucoup. Bah, comment tu fais, toi? Allez, comment tu fais pour préparer tes interviews?
Alors, ça dépend des jours. Ça
la méthodologie d'Adrien.
Ben, elle est assez proche de la tienne, après.
Voilà, c'est aussi une méthodologie de feignant.
Non, mais en fait, non, mais je suis exactement comme toi. En fait, je le fais pas parce que, enfin, ça dépend des gens, tu vois. Ouais, ça dépend des gens. Quand il y a des gens, non, mais et même pas, et de moins en moins. En fait, je les prépare de moins en moins pour la simple et bonne raison. C'est la même réponse que toi, c'est que. Si j'ai le sentiment de connaître les personnes, j'ai plus envie de les rencontrer. Ah, c'est clair. C'est que j'ai plus envie de les rencontrer, j'ai plus envie de leur poser de questions parce que je sais tout. Donc quel est l'intérêt d'aller les voir? Et c'est pour ça que je te rejoins vachement là-dessus. Donc
c'est pas une super. C'est peut-être pas très très pour les jeunes journalistes qui bon, mais gagner du temps en fait. Aller directement à écouter notre expérience avec Adrien.
C'est inavouable.
Et éviter de préparer trop. Mais quand t'es un jeune journaliste, t'en fais trop. Ouais. Moi, je me souviens, je me mettais la rate au courbouillon, je préparais tout, machin, je passais des heures à préparer mes questions et tout. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que. Et puis, je pense que la personne que t'as en face de toi, elle aime aussi cette spontanéité en fait. Ouais. Et ça fait que le rapport est plus cool. Enfin, moi,
et puis le problème de poser des questions, moi je m'en rends compte quand j'ai des listes de questions, c'est que tu perds en fluidité en fait.
Et puis tu peux perdre ton fil.
Et tu perds ton fil.
Et puis une fois que tu perds ton fil, t'es là à paniquer parce que, alors que quand t'as pas de fil, bah, tu le perds pas, tu vois, tu le tricotes au fur et à mesure.
Exactement.
C'est vachement mieux.
C'est quoi les questions qui marchent à tous les coups?
Oh, il n'y en a pas, je crois. Les questions qui marchent à tous les coups. Écoute, moi il y a une question qui est complètement débile, mais que j'adore poser. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé, d'ailleurs. Mais en fin d'interview, pour décontracter tout le monde, souvent, je dis, bon, alors, on imagine, ce soir, tu organises un dîner chez toi, tu invites qui, tu t'habilles comment et tu prépares quoi. Et en fait, dans ces trois questions, mais la personne, et c'est assez révélateur, les réponses, parce que c'est révélateur sur les fringues qu'elle va te donner, sur ce qu'elle va préparer. Parce que souvent t'as des gens qui disent oh non mais moi je cuisine pas, je fais livrer, t'en as d'autres qui disent ah oh, moi j'ai passé des heures, et en fait c'est assez révélateur sur la personnalité de la personne que t'interviews. Donc ça c'est une question que j'aime bien poser, couillonne, mais que j'aime bien poser.
Mais elle est pas facile, hein.
Non, elle est pas facile, hein.
Mais alors tu ferais quoi, toi?
Non, tout à l'heure je t'ai dit pas de questions pièges, Adrien. Et d'ailleurs, je t'ai dit, souvent, je pose des questions et je me dis, j'espère qu'on va pas me la poser parce que je sais pas ce que je répondrai. Écoute, moi, je laisserai mon homme cuisiner parce qu'il fait ça très bien. Ouais. Donc, je pense qu'il préparerait une petite blanquette ou une fondue savoyarde parce que c'est mon plat préféré. Je m'habillerai, je recevrai évidemment à la maison, donc je serai en birk poilu parce que je ne passe ma vie en birk tout le temps. Je serai certainement en jean et en chemise. Cool. Et j'inviterai que des gens que j'aime. Mais que des gens que j'aime, tu sais, profondément. Parce que j'en ai rien à faire des autres. Moi, je veux juste des gens que j'aime. Non, je rigole. Mais je sais pas qui j'inviterai. Ouais. Mais
bah, Nathalie, non? Nathalie.
Nathalie, je l'inviterai. En fait, je pense que c'est Karine Rothfeld qui m'avait dit. Tiens, je crois qu'elle avait, elle avait répondu à cette question et elle m'avait dit le secret des dîners réussis, c'est de mixer et les âges. Et les genres, et les professions et tout, et de faire un énorme melting pot de tout ça. Et généralement, elle me dit c'est les meilleurs dîners. Et je pense qu'elle a pas tort, c'est vrai que ça doit être les meilleurs dîners. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Surtout pas que des gens de la mode. Surtout pas que des gens.
Tu fais beaucoup
de
dîners, toi?
Jamais.
Ouais. Donc c'est réglé.
Jamais. Alors je vais te dire pourquoi. Déjà, j'habite loin de Paris. Donc ça me préserve pas mal. Et je te dis, je suis très casanière, donc je fais très très peu de dîners. En fait, quand je suis à la maison, moi j'aime être avec mon mari, mes loulous, et comme je bouge beaucoup la semaine et tout ça, moi le week-end c'est cool à la maison, avec mon petit cocon autour de moi.
Ça a été un frein d'être loin de Paris?
Oui, je pense, ouais.
Et ça l'est toujours, tu penses?
Alors, c'est à la fois un frein et c'est à la fois une chance. C'est un frein parce que je suis obligée de faire des choix dans ce que je fais. Tu t'es bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup de choses le soir, avant le confinement en tout cas. Tu as beaucoup de présentations de presse le soir, tu as 1000 dîners.
Mais est-ce que c'est nécessaire de faire ça?
Non, bah, tu vois, là, j'en fais pas.
Non, mais je trouve que c'est fatigant, quoi.
Mais moi, je le dis souvent aux attachés de presse.
Arrêtez.
Oui, y a trop. Et aux marques, d'ailleurs, parce que de temps en temps, tu as des marques qui m'appellent et qui me demandent des conseils sur comment communiquer autour de tel ou tel truc. Et en fait, il ne faut pas oublier que les journalistes et les influenceurs qu'ils invitent ont des vies à côté de leur boulot. Et moi, en fait, je suis très contente aujourd'hui d'habiter là où j'habite parce que c'est une super excuse pour pas... Alors, il y a des dîners. De temps en temps, je rate des trucs de folie, hein, mais des trucs où tu dis « Waouh, ça devait être génial !» Parce qu'on vit des trucs de temps en temps où moi, parfois, j'ai les yeux encore écarquillés quand j'arrive à un dîner organisé par je sais pas quelle marque dans un endroit magnifique, privatisé. Enfin, c'est hallucinant, parfois. Les dîners qu'on a, c'est des trucs... waouh, tu vois, mais je sélectionne. Du coup, tu vois, je fais en moyenne un dîner ou deux dîners maximum par mois. Déjà, ça m'oblige à dormir à Paris.
Tu dors où, d'ailleurs ?
Eh ben, je dors beaucoup chez mon petit frère. Je dors beaucoup chez Franklin, qui vit à Paris et qui a une chambre pour sa sœur, qui est choupinou. Hein.
Trop sympa.
Donc, je squatte beaucoup chez lui. Et quand je ne peux pas squatter chez lui, je vais à l'hôtel. Mmh. Et j'aime bien aller à l'hôtel de temps en temps.
Tu vas à quel hôtel ?
Je vais souvent dans ton quartier. Providence, il n'y en avait pas un hôtel qui s'appelle Hôtel Providence, là. Je l'ai fait une fois. Et puis, une fois, j'ai essayé aussi, un peu plus loin, mais le Pigalle.
Le Pigalle, oui. Ouais, voilà. Qui est dans le 9e.
Voilà, j'ai essayé le Pigalle. Donc je dors là, mais non, il y a trop de dîners. Après, peut-être que ça va faire partie des choses qui vont être revues et corrigées post-confinement. Mais tu sais, ça rassure beaucoup les marques et les agences de presse qui bossent pour eux d'organiser des choses comme ça.
Et d'après toi, comment il faut communiquer quand on est une jeune marque
aujourd'hui? Mais moi, c'est le conseil que je donne à toutes les jeunes marques.
Vas-y.
Mais parce qu'il y en a beaucoup
qui te posent la question.
Qui me posent la question. Mais utilisez Instagram, mais le plus possible. Mais tu vois bien, Adrien, tu as monté ta marque. Instagram est un outil merveilleux pour toi. T'imagines est-ce que tu imagines monter une marque il y a 15 ans? Quand Instagram n'existait pas, c'est pas du tout les mêmes donnes. En plus, toi, tu n'es pas annonceur dans la presse écrite.
Non.
Et comme tu n'es pas annonceur, il est fort peu probable que tu arrives à avoir un grand papier dans la presse écrite, puisqu'ils bichonnent les annonceurs.
Bien sûr.
Donc, tu te retrouves avec des papiers qui bichonnent les marques annonceurs. Donc, pour les jeunes marques, c'est quasi mission impossible de se retrouver dans de la presse écrite.
Mais est-ce qu'il faut d'ailleurs se battre pour aller chercher des papiers si t'es pas annonceur?
J'en suis plus tout à fait sûr.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Il faut utiliser
Instagram.
Les réseaux sociaux.
D'accord. Mais comment tu utilises les réseaux sociaux?
Tu l'utilises très bien, toi. Tu l'utilises à merveille. Il faut montrer les coulisses. Il faut montrer les coulisses de ce que vous faites. Mais j'ai participé à un truc l'autre jour où il y avait plein de jeunes marques qui étaient là et je leur ai dit utile. Alors elles me disent oui, mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps.
Bah,
oui,
c'est un full-time job, ouais, bien sûr.
Voilà, c'est exactement un full-time job en fait, Instagram, si on veut vraiment bien le faire, etc. Mais c'est une chance inouïe. Tu peux toucher des gens en un maximum de temps. Toi, j'ai vu ce que tu avais fait. La chemise blanche que tu as lancée, tu as demandé à des personnes de la porter, qui se sont postées. J'imagine que ça a eu une répercussion.
De ouf.
Voilà. Donc, il faut être suffisamment malin et smart pour utiliser les outils aujourd'hui à disposition. Et il faut... Mais d'ailleurs, de plus en plus de marques l'ont compris et n'essayent même plus d'accéder à la presse écrite.
C'est une perte de temps, j'ai l'impression. Surtout que le retour sur investissement, je ne suis pas sûr qu'il soit si puissant que ça.
J'en suis plus si sûre. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis partie du journal. C'est que je ne croyais plus beaucoup en ce média-là, en fait.
Pourquoi ?
Mais parce que de moins en moins de gens
achètent
la presse. Donc moi, j'avais l'impression d'écrire pour un attaché de presse qui arrache l'article et qui va le montrer à son client. Mais je n'avais plus l'impression d'écrire pour une lectrice.
Pour une lectrice, oui.
Donc ça m'a turlupiné, ça m'a contrarié. J'aurais pas pu parler de toi, par exemple, parce que t'es pas annonceur. Et puis, comme la presse est dans une situation délicate en ce moment, il faut bichonner de plus en plus les annonceurs. Donc moi, le nombre de fois où je suis arrivée en conf de rédac en voulant parler de telle ou telle jeune marque et on m'a dit « Elle est annonceur ?»« Ah ben non, elle est pas annonceur. » »« Ben non, on peut pas. » Et du coup... La presse s'est mis un peu une balle dans le pied parce qu'en fait, maintenant, les journaux se mettent tous à faire du coup à tourner en rond et à parler des mêmes personnes et faire les mêmes articles. Le nombre de fois où tu te retrouves avec Isabelle Huppert en couve du Elle, en couve du Madame Figaro, en couve du Marie-Claire, le même mois, la même semaine, parce que Isabelle, enfin, tu te retrouves avec les mêmes choses. Mmh. Et je pense que le lecteur, il faut aller le chercher, faut le nourrir d'informations. Mmh. Et en ça, j'avais perdu la foi en ça. C'est-à-dire que j'avais plus l'impression d'écrire pour une lectrice.
Et qui a tué la presse?
Elle s'est suicidée, non? Il y a plein d'acteurs de ça. C'est-à-dire que les annonceurs qui demandent à la presse d'être de plus en plus, d'écrire de plus en plus quand ils prennent des pages de pub, et puis les journaux qui jouent le jeu parce que quelque part ils peuvent pas trop faire non plus autrement. Ça s'est tué comme ça. On a perdu. Pour la presse féminine, hein, je parle. Hein. Pour la presse féminine, je pense qu'aujourd'hui, les gens vont chercher beaucoup d'informations sur les blogs et sur les réseaux sociaux. Et je suis plus sûre qu'un magazine féminin aujourd'hui soit prescripteur de quoi que ce soit. Tu ouvres un magazine féminin aujourd'hui, tu as déjà eu l'info sur les réseaux sociaux avant de voir le truc. Alors, je dis pas que c'est mort, mais je pense qu'il faut réinventer tout ça.
T'as des idées, toi? Des milliards.
des idées, déjà. Il faut aller rechercher, il faut redonner aux gens l'envie de lire, parce que je vois pas non plus l'intérêt d'un annonceur de prendre de la pub dans un magazine s'il n'y a pas de lecteur. Quel est l'intérêt d'une marque?
Ça n'a aucun sens.
D'aller payer une pub si derrière c'est pas lu. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, il faut aller rechercher les lecteurs. Et les lecteurs, il faut aller les chercher avec de la nouveauté. Il faut oser, quoi. Il faut oser faire des couves différentes. Oui, de la fraîcheur. Et puis, il faut utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je trouve que les magazines féminins n'ont pas encore su utiliser les réseaux sociaux, en faire une force pour eux. Ça, c'est quelque chose qui pourrait marcher main dans la main. Les réseaux sociaux pourraient être... très solidaires de la presse écrite. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu regardes le compte Instagram des magazines féminins. C'est pas incarné, mais ça fonctionne pas. Ils pourraient faire mille fois plus de trucs avec les réseaux sociaux. Je sais pas, tu vas filmer les coulisses du shooting, t'interviews. Il y a mille et une façons. Et aujourd'hui, dans les rédactions, dans la plupart des rédactions, t'as les équipes du web qui sont paf d'un côté, les équipes de la presse écrite qui sont paf de l'autre côté. Et alors, les équipes des réseaux sociaux. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de ce truc-là. Alors, elles, c'est des gens qui prennent en stage, qui valsent tous les 3 mois. Et c'est pas pris au sérieux. Donc, ils veulent pas forcément investir dans des personnes bien pour faire ce truc-là. Mais je trouve que c'est complètement insensé. Il y a mille choses à faire, mille choses à inventer. Mais il faut aller rechercher le lecteur et lui donner envie d'ouvrir.
Il faut prendre des risques. J'ai le sentiment que... Enfin, le problème de notre monde, c'est finalement peut-être le salariat. Non, mais je me demande, parce que quand t'es salarié, je trouve que c'est plus difficile de prendre des risques et d'oser faire des choses.
Oui, tu prends moins de risques.
Et quand tu dis qu'il faut incarner, demain, j'imagine pas la rédactrice d'un de ces magazines féminins commencer à prendre le devant de la scène, quoi.
Bah, elle devrait.
Bah ouais.
Elle devrait. Tu sais, il y a un magazine, je sais pas si tu te souviens, qui, à mon avis, avait eu la super bonne idée, mais qui est arrivé trop tôt. C'était le magazine Bee. Et le magazine Bee, quand il est sorti, en même temps, il y avait un truc qui s'appelait sur Internet les Bee Girls ou je sais plus quoi. Et les filles du magazine se filmaient en train de faire les séances stylisme, en train de faire les interviews et tout ça. Ça se retrouvait sur le site. Il n'y avait pas encore Instagram à l'époque. Mais c'était une super
bonne idée. C'était
hyper cool. C'était une super bonne idée. Et puis, bon, ça a capoté. Parce que je pense que le niveau timing, c'était trop tôt, bizarrement. Mais aujourd'hui, il y a mille choses à inventer. Mais il faut oser. Et puis, les magazines ont peur d'incarner. Moi, je me souviens quand je m'occupais du compte Instagram du journal, parce que quand je faisais les Fashion Week, je postais beaucoup sur le journal.
Et tu te montrais?
J'avais pas le droit de me montrer.
T'avais pas le droit de te montrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que après le lectorat s'attache à une personne.
J'ai jamais vraiment su pourquoi, mais j'ai jamais eu le droit de me montrer, de parler face caméra et de dire je vous emmène là-bas. C'était toujours c'était plutôt dans l'ombre. Donc je leur envoyais les vidéos, mais ils faisaient le tri et tout. Et c'est ça, moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas la question, mais il faut incarner les réseaux sociaux. Hein. Les gens aujourd'hui, mais moi la première, quand je suis quelqu'un, moi je suis beaucoup de monde sur Instagram, mais j'aime bien quand c'est incarné. J'aime pas suivre un truc froid.
Mais c'est clair, mais ça... Mais les gens commencent à le comprendre, mais ça prend du temps. Et en fait, mais moi, même avec ma marque, je trouve que c'est difficile de se mettre devant quand c'est pas dans ta nature de le faire. Mais en fait, c'est.
Mais tu vois bien.
T'as pas le choix.
Tu vois bien les retours.
Mais c'est hallucinant.
Tu vois, quand j'ai fait le truc sur vous, quand j'ai fait la petite story sur un happy déconfiné avec toi et que tu m'as parlé de la chemise en précommande, etc. Tu m'as parlé, Alice m'a parlé, mais. J'ai eu plein de retours. Les gens sont contents de voir qui se cache derrière la marque, de voir le cœur que vous y mettez, de voir les valeurs qui sont les tiennes. Mais c'est une chance inouïe de pouvoir le dire et de pouvoir le montrer.
D'avoir une
et de
plateforme
pouvoir...
pour le faire.
Enfin, tu vois.
Une audience qui est là et qui écoute et qui...
Il faut, mais c'est ce que je disais aux jeunes marques aussi quand j'avais fait cette fameuse conf autour de ça. C'est un job. C'est énormément de boulot.
Celui qui le fait hyper bien, c'est Jacques Muse, quoi. Et ça, il l'a compris très tôt. Il s'est très rapidement mis en scène.
Mais il fait que ça. Super bien compris.
Mais il fait que ça.
M-Stone le fait vachement bien aussi.
Ouais, Alix, elle le fait super bien.
Je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit, ton compte M-Stone, mais tu l'utilises hyper bien quand elle fait ses points look toutes les semaines, quand elle fait. Mais c'est génial. C'est pas compliqué.
Non.
Mais son truc est incarné. Elle tient au courant les gens du stock, etc. Elle montre les choses, mais c'est.
C'est le B.
Tout ça, quoi.
Qui d'autre le fait bien, d'après toi?
Alix, elle le fait à merveille. Miss Maggie's Kitchen, j'adore ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si tu la connais, Héloïse. Il faudrait que tu l'interviewes, Héloïse. Elle est vraiment cool. Héloïse, elle a quitté... elle était à la DIRCOM de Gérard Darrel. Elle a tout quitté il y a 2 ans. Et paf, nouvelle vie. Et elle s'est lancée dans l'art de vivre. Et Miss Maggie's Kitchen, je ne sais pas si tu connais, c'est des recettes. Maintenant, elle vit en Normandie et tout. Et Miss Maggie, elle a utilisé Instagram d'une façon formidable. Elle fait rêver les gens, mais elle les fait rêver naturellement, puisqu'elle est comme ça naturellement. Mais elle a réussi à transmettre son lifestyle via des photos, via des lives qu'elle a fait pendant le confinement, via juste elle, tu vois. Mais c'est incarné. C'est elle. Alors, bien sûr, il faut jouer le jeu.
Oui.
C'est sûr, il faut jouer le jeu. Mais
ça te coûte, toi? Ça coûte de jouer le jeu?
Moi, pas du... Non, mais moi, je le fais complètement naturellement. Un peu trop, peut-être, d'ailleurs.
Moi, j'aimerais revenir sur l'épisode, quand même, quand t'as décidé de quitter la rédac de Madame Figaro. T'as senti monter la petite boule en toi?
J'ai senti monter la boule pendant un an. Elle a eu le temps de grossir.
Et donc, décision hyper difficile. Et surtout que tu lâchais la proie pour l'ombre, clairement. Enfin, est-ce que tu as commencé à construire quelque chose avant ou comment ça s'est... Raconte-nous la transition.
Ouais, mais j'ai en fait... Donc, décision très dure à prendre parce que, un, j'étais bien là où j'étais, même si ce dont je t'ai parlé avant, les difficultés de parler de marque dont je ne pouvais pas parler, et cette sensation de ne plus écrire pour une lectrice, ça commençait à me perturber. Et... Parallèlement à ça, sans rien avoir prémédité ni tout ça, je voyais que je prenais de plus en plus de plaisir à faire des trucs sur Instagram et à parler sur Instagram. Et j'ai réussi à tisser quelque chose sur Instagram qui me manquait beaucoup avec la presse écrite, c'est l'échange avec la personne qui te suit. C'est-à-dire, on communique. Non, mais vraiment. Et ça, je ne l'avais pas avec la presse écrite. Tu écris ton papier, tu le donnes à ton boss, il te relit, tu fais les corrections, tu envoies ton papier. J'avais zéro retour des lecteurs. J'ai dû recevoir 2 lettres manuscrites, écrites un peu en tremblotant, en me disant que je mettais trop de mots anglais dans mes papiers. Mais c'est tout en retour, tu vois. Alors que là, tu postes. Mais moi, j'ai trouvé
c'est
ça magique.
Instantané, ouais.
Mais j'ai trouvé ça magique d'avoir des réponses de gens et de pouvoir enclencher une discussion avec des gens. Je trouve ça dingue, en fait, ce truc. De toute façon, ce réseau social, je le trouve hallucinant. Hallucinant. Pour moi, ça a été une révélation, en fait, Instagram. Mais vraiment. Et du coup, je voyais que je commençais vraiment à m'amuser avec ça. Je voyais que je prenais de plus en plus de plaisir. Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, il ne faut pas te consacrer entièrement à ça, essayer de réfléchir à des trucs autour de ça. Et c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Et c'est comme... Donc oui, c'était... Enfin, disons que je partais pas pour rien, puisque je savais que j'avais mon Instagram derrière et que je voulais développer ce truc-là. Donc je suis partie dans l'idée vraiment de m'éclater encore plus avec cet outil, en fait.
Donc tu avais déjà commencé à faire des trucs,
ouais.
Etc.
Ouais. Et j'étais embêtée parce que il y avait des marques qui commençaient à vouloir bosser avec moi, notamment sur des takeovers, quand ils faisaient des choses, ou qui voulaient que je les conseille pour sur la manière de gérer leur compte Instagram, pour avoir des idées, etc. Et je me sentais le cul assise entre deux chaises, je savais plus si j'avais la casquette de journaliste ou toi, je me sentais plus à ma place, en fait. Et je me suis, il y a un moment où j'ai dû prendre des décisions, quoi. Et je me suis dit, allez. Alors après, c'est vrai que c'est très facile à dire, de prenez des risques, les gars, allez-y, lancez-vous. Les risques, je pouvais les prendre. D'un point de vue financier, j'ai un mari qui est à mes côtés et qui travaille. C'est facile à dire ça,
quand t'es backup, ouais.
Voilà, quand t'es épaulé. Moi, je suis épaulé. Donc, ce risque-là, oui, ok, j'ai pris un risque, mais je n'étais pas toute seule. Donc, je comprends que ce soit très compliqué pour certaines personnes de prendre ces risques-là. Mais dans la vie, ma grand-mère me dit d'ailleurs toujours, t'as la vie que tu te fais. Ce qui est partiellement vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vis à la campagne, je l'ai voulu, je l'ai fait. Aujourd'hui, je fais ça, je l'ai voulu, je l'ai fait. Et ça implique de prendre des risques. C'est pas possible d'évoluer sans prendre de risques. C'est pas possible. Donc voilà, je les ai pris.
Et tu kiffes aujourd'hui ?
Mais j'adore, Je touche du bois d'ailleurs, tu vois, ta table est en bois, je touche du bois, j'adore, je m'éclate, d'ailleurs j'ai une chance inouïe parce que je suis suivie par des personnes qui sont hyper bienveillantes, je n'ai jamais de messages méchants ou pas sympas, je me marre et les gens se marrent je pense, donc du coup on se marre ensemble, donc c'est cool, je leur fais découvrir des trucs et moi je découvre encore des choses, donc c'est génial, et j'ai l'impression, pour le coup, de m'adresser à quelqu'un et d'avoir quelqu'un derrière qui réagit et qui tout ça. Et le nombre de fois où j'ai des gens spontanément qui m'envoient des conseils, des adresses, va voir s'il fait ça. Enfin, je trouve ça génial, en fait. Il y a un échange qui est génial et que j'avais pas avant.
C'est quoi la ligne éditoriale de ton compte, ouais.
Je vois pas ça comme une ligne.
Tu le gères pas comme un magazine.
Je pense que inconsciemment je le gère un peu comme un magazine et que j'ai la déformation professionnelle pour avoir bossé dans un magazine parce que je le rubrique beaucoup. Ouais. J'ai la rubrique avant le confinement, j'avais les jeudis de Peggy que je vais reprendre d'ailleurs à la rentrée où je vais à la rencontre de quelqu'un. J'ai les ça va arriver, j'ai là les happy déconfinés. Donc je vois ça comme des rubriques et ça, je pense que c'est une déformation pro de la presse écrite en fait. J'aime bien quand une story t'as un début et une fin et que tu racontes un truc et que il y a en presse écrite tu parles d'une attaque. Et à la fin, tu parles de la chute. Ben moi, inconsciemment, je pense que j'ai gardé ce truc-là de la presse écrite. Après, pour le reste, je ne m'interdis rien. Et la seule ligne éditoriale que j'ai, c'est faire ce que j'ai envie de faire. Parler de qui j'ai envie de parler.
Écoute tes tripes, ouais.
Pardon ?
Écoute tes tripes.
Ouais, exactement. Et je m'interdis rien. Et si parfois, il y a quelqu'un, une marque qui vient me voir en me disant « On aimerait que tu fasses ce takeover, mais que la marque ne me parle pas », je le fais pas. Et ça, c'est cool.
D'avoir le luxe de le faire, ouais, c'est quand
cool.
même
c'est
quand même c'est hyper
pas cool. Ah, attends, juste,
vas-y, réponds,
je décroche parce que c'est Pia.
Voilà.
Et elle est toute seule à la maison. Allô ? Tu réponds pas. Non, tu réponds pas, chérie, t'inquiète pas. Je te laisse parce que je suis en interview, mon chat. Tu réponds pas. Bisous. Ça sonne à la porte et je lui ai dit, tu ne réponds pas. Je te disais quoi ?
Tu me disais que tu les takeovers parfois ça t'arrive de les refuser.
Bah oui, ça m'arrive de refuser et ça j'avoue que je vais essayer de conserver. D'ailleurs, je vais pas essayer, je vais le faire. Je le fais. Je veux plus me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et de temps en temps au journal, il m'arrivait de devoir écrire sur quelqu'un sans avoir vraiment l'envie de le faire. Là, j'ai pas envie.
Alors la galaxie Peggy Frey.
Peggy Frey.
Le business model de Peggy Frey aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, j'ai pas vraiment de business model. Je bosse avec les marques qui viennent me chercher pour avoir souvent mon conseil pour animer leur compte Instagram. Donc là,
tu fais du consulting.
Ouais. Voilà.
Tu leur dis quoi d'ailleurs? C'est vraiment.
C'est au cas par cas parce que ça dépend vraiment de la marque, de ce qu'elle fait,
de sa ligne éditoriale aussi
à elle, parce que pour le coup.
Ça, tu kiffes faire ça?
Ouais, j'adore. Ouais. J'adore parce que c'est hyper intéressant en fait. Ah, je peux pas te le
dire. Ah, on va dire.
Non, je peux pas te le dire parce qu'il y en a qui viennent me chercher sans, en me disant tu dis pas.
Tu dis pas. Donc,
et d'ailleurs, je le montre. Enfin, tu vois, je. Ouais. Mais des marques très différentes les unes des autres, des marques de luxe, des marques de pas luxe, vraiment. Et ça, j'aime bien parce qu'il faut, réfléchir et se creuser la tête sur comment utiliser, comment parler au mieux à leur communauté. Et ça, c'est assez cool de réfléchir à tout ça. Je fais beaucoup de takeover. Et ça, j'adore. J'en ai fait pour Tod's aussi bien que pour La Redoute, aussi bien que pour Bulgari. Enfin, tu vois,
pour Première Vision.
Pour Première Vision.
Ouais,
voilà, pour vraiment des choses très différentes.
Très différentes.
Et ça, j'adore. Et en fait, ils viennent me chercher. Et ça, ça me fait plaisir pour mon côté intervieweuse. Mmh. Donc, je renoue, tu vois, avec l'interview et tout ça. Donc voilà. Donc, j'ai pas vraiment de business plan. Mmh. Je vais encore une fois là où le vent me porte. Mmh. Et parfois, des marques m'appellent pour des trucs complètement improbables. La semaine prochaine, je vais bosser. Je peux pas te le dire maintenant, mais je vais bosser pour une marque de beauté. Qui veut faire un petit film interne pour ses réseaux et pareil qui me demande d'interviewer des personnes. Parfois je fais des conférences aussi pour les marques. J'en ai fait pour Le Bon Marché qui m'a demandé d'animer des choses. Enfin, je trouve
c'est
ça très cool.
Une panoplie, ouais.
Parce que ouais,
t'as un panel d'outils à ta disposition, trop
exactement.
Cool.
Exactement. Et ça, je trouve ça très chouette. Et j'ai pas de routine. Et c'est ce qui me plaisait déjà dans le métier que j'avais avant au journal, c'est que j'avais pas de routine dans la façon de. Je pouvais rencontrer. Je te dis n'importe quoi, un boucher, parce que j'ai fait des papiers sur des bouchers, puis le lendemain, j'allais rencontrer une première d'atelier. Enfin, tu vois, j'aime bien ne pas avoir de routine. Et là, j'en ai pas, donc c'est cool.
Interview Rockstar, à quoi ressemblent tes journées? Parce que tout ça semble très facile à mettre en route. Enfin,
non,
on a l'impression que,
ouais.
On a l'impression que c'est facile, mais je pense qu'il y a un travail de malade derrière.
Alors. Il y a un travail de malade, notamment parce que j'habite pas à Paris. Donc, du coup, ça demande une organisation un peu, petit peu plus pointue que si j'habitais Paris. Donc, en fait, je regroupe tous mes rendez-vous sur une journée ou deux ou trois. Enfin, bref. Donc, quand je viens à Paris, c'est la course. Donc, c'est tac, 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 tac. Je fais mes rendez-vous, je les enchaîne. Et puis, en plus, moi, j'aime bien aller chercher les enfants à l'école. Donc, mon train, je le reprends assez tôt pour pouvoir être rentré à Reims en temps et en heure pour aller chercher les enfants à l'école quand il y a de l'école. Donc ça, c'est rythmé. Et quand je suis à la maison, c'est devant mon ordinateur. Mais en fait, là où je te rejoins, c'est que les gens pensent que c'est... Ça me fait marrer parce que les gens,
cool.
Notamment le journal, peuvent penser que c'est très facile à faire. Instagram, des interviews, que c'est un peu du vent en fait, parce que, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout du vent. Des stories, ça s'édite par exemple, alors édité, je vais expliquer.
Je vois ce qu'on a fait ensemble, t'as passé 3 heures dessus,
voilà.
Quoi. C'est l'enfer.
Ça s'édite, ça se coupe, ça se monte, enfin ça se monte, je fais pas beaucoup de montage, mais en tout cas je coupe. Tu vois par exemple, quand je vais interviewer quelqu'un, je fais plein de vidéos, mais je vais garder que 10 ou 15 vidéos sur 40, donc il faut que je regarde quelle est la meilleure vidéo, le truc le plus pertinent qui a été dit, enfin c'est...
Comment tu fais ça? T'as un logiciel d'édition sur ton téléphone
ou tu le fais à la main?
Non,
je le fais comme ça à la main. Ouais. Je fais tout à la main. Je fais tout avec pour couper, je vais dans iMovie. Non, même pas. iMovie, j'utilise de temps en temps quand j'ai un petit montage à faire. Mais vraiment rien de sorcier parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis une quiche, mais vraiment en informatique.
C'est pratique.
Voilà, mais vraiment. C'est-à-dire que. Je suis vraiment très mauvaise.
Mais ça se voit pas trop.
Non, ça se voit pas trop. Mais je cache bien mon jeu. Mais en fait, alors j'utilise très bien Instagram parce que j'ai appris à l'utiliser. Mais par exemple, je sais pas aller sur Facebook.
Ça sert plus à rien, Facebook.
J'en sais rien. Peut-être que si. Ah, attends, ne bouge pas. Je suis vraiment obligée de lui répondre. Oui, Pia. C'est sur mon trousseau. Et chérie, je suis vraiment en interview. Je te rappelle après. Non, il n'y en a pas. Bisous. Alors là, c'était une question essentielle. Est-ce qu'il y a un double de la clé de la boîte aux lettres à la maison? Excuse-moi.
On coupera pas, hein, je te le dis tout de suite.
Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Tout le monde saura que je n'ai pas de double de ma clé de boîte aux lettres à la maison.
Moi non plus. Qu'est-ce qu'on disait
On parlait d'éditer,
ouais,
tout
d'éditing.
Ça. Non,
ouais.
C'est énormément
et d'organisation.
De boulot, en fait.
Ouais. Parce que donc quand tu viens à Paris, ok. Quand ouais. T'es à Reims, qu'est-ce que tu fais?
Alors quand je suis à Reims, je suis devant mon ordinateur pour organiser les journées où je vais venir à Paris.
Ouais.
Je fais toutes mes vidéos, par exemple les vidéos que je t'ai envoyées.
Oui.
Je prépare toutes mes vidéos comme ça que j'envoie aux personnes que je veux interviewer à distance en ce moment. J'arrête pas. Je peux pas t'expliquer.
Ouais.
Je sais pas comment je me démerde.
Ouais.
Mais je n'arrête pas.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi le Covid?
Dans ma vie pro. Dans ma vie pro.
Oui, perso, alors aussi. Hein.
Ben, le Covid, pas grand-chose. J'ai beaucoup bossé pendant le confinement, avec les happy déconfinés, tout ça. Mais concrètement, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. En revanche, je suis très surprise de la façon dont certains l'ont géré. Je trouve que... Ça a été assez révélateur, je trouve. Il y a certaines personnes, tu les as pas entendues pendant les 2 mois. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait beaucoup de choses, qui ont essayé d'animer, qui ont tout ça. Enfin, c'est... Tu vois, je discutais hier avec Sophie Carbonari, qui est une facialiste. Tu sais, c'est des... Elle fait des soins du visage top. C'est une nana qui est à Londres et qui maintenant arrive à Paris. Et je vais faire un truc avec elle bientôt. Et on parlait du confinement. Et elle m'a dit, mais moi, j'ai jamais autant bossé que pendant le confinement. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses sur Instagram pendant le confinement. Et elle m'a dit, mais c'est hyper révélateur. Parce qu'en fait, tu sens qu'il y en a qui... T'as beaucoup bossé, toi, par exemple, pendant le confinement. Et il y en a d'autres qui n'ont rien fait. Et tu sens quand quelqu'un a quelque chose à dire ou pas, en fait. Et moi, ce confinement, je l'ai hyper bien vécu parce que j'ai plein de trucs à raconter. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, hormis que j'avais les enfants 24 heures sur 24 à la maison, les courses à faire, le ménage, la bouffe, le linge. Enfin, bah, tu vois. Donc, en fait, c'était sport, ce confinement,
finalement.
Douloration,
ouais.
Ouais. Mais j'espère que ce confinement va changer pas mal de choses pour la suite.
Comme quoi ?
Mais j'espère que... J'ai hâte de voir, par exemple, comment le monde de la mode va réagir à tout ça. Tu vois, par exemple, on ne sait pas encore s'il y aura de Fashion Week en septembre. S'il n'y a pas de Fashion Week, il faut quand même que les marques se mettent à...
Présente quelque chose,
se réinventent. Et il y a, je pense, beaucoup de choses à faire. Et c'est peut-être le moment de repenser aussi les défilés, de les faire différemment.
Comment tu les imagines, toi ?
Déjà, est-ce que c'est nécessaire de faire voyager autant de monde ? Tu vois, quand tu fais venir tout le monde, et l'empreinte carbone en prend un coup, quand tu fais venir tous les acheteurs, tout ça, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce qu'il ne faut pas que les défilés soient itinérants et plutôt que d'aller peut-être faire venir les gens, tu vois, de faire un défilé à New York en plus petit comité ? J'en sais rien, mais il y a certainement des choses à imaginer. Je pense que le défilé doit toujours exister parce que l'expérience d'un défilé... Il y a beaucoup de gens qui disent que ça peut être du digital. C'est pas du tout la même chose, en fait. Un défilé, tu le vis. Moi, je vois bien, quand je vais à un défilé et que je ressors d'un défilé, tu t'imprègnes, mais complètement.
Puissant,
tu t'imprègnes énormément de tout.
On se rend pas compte de l'impact que ça a.
Non. Et beaucoup de personnes pensent que tu peux regarder un défilé sur ton écran, ça sera exactement la même chose. C'est faux.
C'est en 2D. Ouais.
C'est faux. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que les défilés vont encore exister, mais peut-être en plus petit comité. Je sais pas, mais j'avoue que j'ai hâte de voir ce qui va se passer.
La suite des événements.
Ouais.
Moi, il y a un truc qui m'impressionne quand même beaucoup à chaque fois. C'est peut-être con, mais t'as quand même t'interviews que des restas, quoi. C'est hallucinant. Enfin, beaucoup. Non, mais tous les gens qu'il y a sur ton Instagram, enfin, t'as les meilleurs, quoi.
Oui, mais j'étais gentil.
Non, mais comment tu fais ?
Mais je t'aime.
Parce que moi, j'aimerais bien les avoir.
Je t'ai eu.
J'ai pas dit ça pour moi.
Rockstar au monde.
Ah ouais, c'est vrai qu'en plus je suis sur ton ton feed, c'est énorme. Un petit barbu.
Ça fait 15 ans que je fais ce métier.
Mais oui, c'est ça.
Donc
c'est
en fait, ça fait 15
tous.
Ans que je j'ai tissé des liens.
Moi, ça fait que 2 ans et demi, donc il faut se détendre un peu.
Voilà, ça fait 15 ans que je rencontre les gens, que je les connais, que je les revois chaque année, que.
Comment tu fais pour justement garder le lien et l'entretenir? Tu y penses même pas, je suis sûr.
Non.
C'est quelque chose de très naturel. Je
ouais. Je sais pas comment je fais, t'as raison.
Non, mais comme t'as un côté très... t'es très jovial, très sympathique, t'es très chaleureuse, ça se fait naturellement.
Ouais. Oui, non, c'est pas du tout prémédité, ni calculé, ni tout ça. Mais moi, j'aime. Alors, en revanche, je suis très entière. Hein, donc, quand j'aime pas quelqu'un, je l'aime pas. Hein, donc, je ne fais pas d'efforts. Ouais. Mais j'aime bien les gens. Enfin, je veux dire, après, les gens que tu vois sur mon compte, c'est que des gens que j'aime bien pour le coup. Parce que. Mais non, je sais pas, les choses se font naturellement. Et les gens sont sympas, en fait. Moi, franchement, tu vois, quand je vois. Caroline de Maigret, qui est un cœur de beurre, en fait. Non, mais je peux pas t'expliquer. Ouais.
Elle est très, très gentille.
Karine Roitfeld, je l'adore. Je fais des choses avec... Je sais pas, j'arrive pas à t'expliquer, mais évidemment que mes 15 ans au Madame Figaro
aident un peu.
M'aident énormément, bien
parce
sûr.
Parce que c'est des gens que t'as croisé énormément, beaucoup, mais beaucoup, oui. Tous les six mois.
Je me lancerais là maintenant, ça serait pas pareil, tu vois.
Qu'est-ce que tu ferais, d'ailleurs? Alors, si quelqu'un voulait faire la même chose que toi aujourd'hui,
là, tout de suite,
en partant de rien.
Ben c'est chaud.
Il faut se lever très tôt. Ouais.
C'est chaud. Écoute, hier, d'ailleurs, je vais le poster aujourd'hui, je vais le poster ce soir. Hier, j'ai reçu une... Alors, je ne me souviens plus du nom de la jeune fille. Hier, j'ai reçu un truc sur Instagram qui m'a tellement fait marrer. Et je me suis dit, mais cette fille a tellement tout compris. J'ai reçu un message d'une fille qui a 18 ans. Je vais essayer de te le retrouver. Et qui m'a envoyé une vidéo spontanément d'elle. Et cette fille recherche un stage en alternance dans le monde de la mode, donc dans une grande maison et tout ça. Où est-ce qu'elle est? Attends, je suis désolée, je cherche en même temps. Merde, c'est pas elle.
Vas-y.
Bon bref, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais le poster ce soir. Donc, enfin, je vais le poster, donc vous le verrez. Cette fille m'a envoyé une vidéo d'elle. Où elle a repris l'air de je sais plus quelle chanson et elle a fait une vidéo qui doit faire 2 minutes 30 où elle explique en chantant, donc elle a refait les paroles de la chanson et en montrant ce qu'elle sait faire avec une machine à coudre. Et donc on la voit partir du marché Saint-Pierre, aller chez elle, coudre et on voit le produit final qui est une veste et sa lettre de motivation. D'ailleurs, l'intitulé du mail qu'elle m'a envoyé, c'est ma lettre de motivation. Elle a cousu sa lettre de motivation à la main dans la doublure de sa veste. Elle m'a envoyé une vidéo avec une chanson de tout ce qu'elle fait, etc. Mais évidemment que je vais rigrammer cette fille et évidemment qu'elle a eu une super idée de communiquer aujourd'hui comme ça. Donc, ta question, c'était qu'est-ce que tu conseilles qu'est-ce que tu conseillerais
qu'est-ce que tu ferais pour faire la même chose que toi
mais
en
faut
partant
être hyper
de
imaginatif
scratch, quoi.
Sur Instagram. Mais se donner du mal parce que cette fille... Je sais pas combien de temps elle a dû prendre, putain, mais tu vois, pour les paroles de la chanson, coudre le truc, faire la veste.
Enfin, un peu de taf,
je sais pas combien de jours ça lui a pris, mais ça a dû lui prendre un temps infini. Je vais poster ce truc et j'espère vraiment que des marques vont la remarquer et prendre en stage, en alternance, cette petite de 18 ans qui en veut à mort. Et j'espère, ça sera peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui se lancent, ont la chance d'avoir cet outil-là, mais il faut savoir l'utiliser avec beaucoup d'ingéniosité. Et ça marche.
Tu regardes les autres plateformes? Parce qu'on parle de TikTok, on parle de
ouais,
trois
alors
trucs.
Alors TikTok, je m'y suis mise. C'est la blague. TikTok, ma fille, Pia, passe ses journées sur TikTok.
Ouais,
hein, mais vraiment, quand je te dis ces journées, et tu vois que TikTok, alors au début c'était un truc, c'était Musical.ly, c'était un truc de chanson, et puis petit à petit, ça l'est toujours un truc de chanson, mais c'est aussi un truc de danse et tout. Mais j'ai vu pendant la dernière Fashion Week de New York que des TikTokers étaient invités, et ça, c'était la première fois que je voyais des TikTokers à des défilés. Et c'est bien la preuve que c'est une plateforme qui intéresse énormément de gens aujourd'hui. Moi, j'adore TikTok. Pourquoi? Pour les trucs que tu peux faire en chanson, tu peux faire des petites vidéos un petit peu plus fun que sur Instagram. J'avoue que je suis une quiche, donc heureusement, j'ai Pia qui m'a aidé à faire mes petites vidéos, mais là, il faut que j'en refasse une, mais je trouve que TikTok est hyper intéressant, et tu t'adresses pas aux mêmes personnes que sur Instagram, je pense que c'est plus jeune. Mais je trouve ça assez cool. Après, voir ma fille toute la journée sur TikTok regarder des débilités, parfois je me dis, Pia, fais le tri, bon sang, parce que...
Il n'y a pas que du bon, quand même.
Il n'y a pas que du bon, c'est ça. Mais c'est intéressant. YouTube, c'est intéressant aussi. YouTube, je m'y penche, je réfléchis. Parce que ça demande du temps, tu vois.
Mais c'est des jobs à full time, c'est affreux.
Ça demande énormément de temps. Et moi, ce que j'adore avec Instagram, c'est que je trouve ça hallucinant de pouvoir faire tout ce que je fais juste avec un téléphone. Tu vois, toi, là, tout le matos que t'as.
C'est vrai que c'est beaucoup trop de matos.
Tu vois? Mais enfin, c'est magique, quoi. Mmh. Tu filmes, tu coupes toi-même, paf, t'envoies ton truc, c'est génial. Mmh. Après, c'est ce que je dis souvent aux gens. Moi, c'est très artisanal. Hein. Mmh. Y a pas de montage,
ouais,
c'est pas chiadé. Ouais. Je leur dis tout le temps, c'est brut de pomme. Hein. Y a pas.
Et c'est ce que la plateforme aime aussi.
Oui, je pense. En tout cas, moi, c'est tout ce que je sais faire.
Si c'était hyper léché, etc., t'aurais peut-être pas la même.
Peut-être. Oui, peut-être. Mais ça m'arrange parce que de toute façon, je ne sais pas le faire.
Ouais. Trop bien.
Tu regardes tes questions.
Non, je regarde si j'ai tout couvert. Je pense qu'on a à peu près tout couvert. La question que je me posais, moi, c'était si tu croisais Peggy Frey 20 ans, qui a 20 ans.
Ah, moi, à 20 ans.
Quel conseil tu lui donnerais?
Ah, je me recroise avec la vie que j'ai eue aujourd'hui.
Ouais, avec la vie, mais en tout cas, ouais, si tu la recroisais, voilà, 20 ans, tu croises Peggy Frey là, dans la rue.
Je lui dirais je lui dirais ce que j'ai compris un petit peu plus tard, c'est-à-dire je lui dirais d'oser beaucoup plus,
ouais.
Tu vois, parce que j'ai mis du temps pour oser. Je lui dirais ça parce qu'en fait, tu gagnes du temps. Quand tu oses, tu gagnes beaucoup de temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
De ouf.
Voilà.
Mais ça, tu quand t'as 20 piges...
Ben voilà, mais c'est bien le problème. Quand t'as 20 piges, moi, je vois ma fille aujourd'hui qui a 13 ans.
Elle n'ose pas.
Et qui est très timide. Et je lui dis, et le conseil que je lui donne, je lui dis, Pia, arrête de te soucier de ce que les autres pensent de toi, en fait. Mais arrêtez. Je n'arrête pas. Je lui dis, Pia, arrête. Je lui dis, fais tes trucs. T'aimes, c'est le principal. Mais arrête de te soucier du regard des autres. Donc, je me dirais ça parce que je pense qu'à 20 ans, j'étais...
Omnubilée par ça.
Plus comme ça. Et je dirais de savoir écouter les signes et de gagner du temps comme ça, parce qu'en fait plus tu t'ouvres à l'autre,
ouais,
plus t'es curieuse de l'autre, plus tu te nourris de l'autre, mais plus t'apprends sur toi et plus tu montes vite et tu t'évolues plus vite, en fait, et tu sais plus vite ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas et ce que tu... Voilà, c'est juste
et
ça.
Ce déclic, moi, tu vois, par exemple, je l'ai eu à 28 ans, je l'ai eu hyper tard,
ouais,
quoi.
Mais comment tu l'as eu, toi?
Bah, parce que je me suis séparé de ma voilà, meuf de l'époque et je me suis remis en question et je voyais bien que la vie que j'avais était pas, je vivais pas ma pleine vie, tu vois.
Donc t'as eu un déclic.
J'ai eu un déclic.
Voilà.
Mais tu vois, c'est tard, quoi. Et il faut...
28 ans, c'est jeune quand même, t'imagines tout ce que t'as encore devant toi.
Ouais. Mais j'aurais adoré l'avoir à 15 piges, quoi, ou même à 12 ans.
Ouais. Mais il y en a, tu sais, de temps en temps, tu tombes sur... Mais regarde la nana qui m'a envoyé sa vidéo, là, la petite jeune fille de 18 ans. Je trouve ça super d'oser déjà... me l'envoyer, me la faire, oser se mettre en scène. C'est pas évident de se mettre en scène. Hein. Moi, souvent, quand j'interview des gens et que je dois les filmer, souvent, j'ai le droit à « Oh non, je veux pas me voir, je veux pas... » C'est pas évident de se regarder, de s'écouter, tout ça. Il faut apprendre à s'aimer aussi, en fait. Plus tu t'aimes, plus tu as confiance en toi, plus tu t'acceptes tes défauts, hein, tes défauts comme tes qualités, plus tu vas avoir confiance en toi et plus cette confiance va te porter.
Et ta fille, comment tu lui transmets ça à part lui dire?
Eh ben, j'arrête pas de lui dire. Je lui dis, je la prends avec moi. Tant en temps, j'emmène avec moi à Paris. Et alors, un truc important que je fais aussi avec Lucien et Pia, c'est que quand on va au resto, c'est eux qui prennent les commandes, c'est eux qui parlent. Je veux pas qu'ils m'utilisent pour faire des choses. Et je trouve que dès le plus jeune âge, c'est important que les enfants sachent s'exprimer par eux-mêmes. Passer une commande. Ah non, j'ose pas la passer. Bah si,
ouais,
tu vas
non,
la passer.
C'est con.
Mais oui, mais c'est débile.
Mais on l'a tous eu, quoi.
C'est débile. Ouais. Ah non, j'ose pas la passer. Ou tu sais, quand tu rentres dans une boutique et que tu voudrais essayer une taille, mais t'oses pas demander la taille. Et moi, je les force. Je leur dis, voilà, tu veux cette taille-là? Tiens, regarde, la vendeuse, elle est là-bas, tu vas aller lui demander toute seule. Et c'est par des petits trucs comme ça, je pense que petit à petit, tu gagnes en confiance et petit à petit, ça rentre. Mais non, je lui dis ça. Je lui dis d'être singulière aussi dans sa manière de s'habiller, tu vois, d'éviter d'être un petit mouton. Alors, c'est dur à cet âge-là parce que t'as toujours les mêmes références, les mêmes tout ça, mais j'essaye de lui inculquer ça. Alors, elle, parfois, elle me voit avec mes trucs et elle me dit « Oh, tu vas pas venir me chercher à l'école comme ça. » Mais c'est pas grave. Je me dis que ça, plus tard, ça lui servira, en fait. Je me dis, moi, je me suis rendu compte plus tard de la chance que j'ai eue d'avoir l'enfance que j'ai eue, les parents que j'ai eus, cet amour qui m'a portée et qui, je pense, m'a construite. Mais je m'en suis rendu compte adulte. Donc, je pense que ce que je fais aujourd'hui, elle s'en rendra compte adulte. J'aurai un retour sur investissement, c'est sûr, un jour ou l'autre.
C'est quoi le futur du métier de journaliste?
De la presse écrite? Journaliste presse écrite,
Je sais pas. Franchement, non, mais la question c'est que je me pose, c'est bon, de toute évidence, la presse écrite va mourir.
Ouais, je pense. À moins qu'elle se réinvente sérieusement.
Ouais. Enfin, je vois pas comment elle peut renverser la tendance actuellement sans se réinventer. Il y aura toujours de la place pour des magazines un peu edgy, ouais, etc. Ouais. Genre self-service, etc. Mais tous ces journalistes-là, comment ils doivent se réinventer en fait?
Ah, tu parles des journalistes?
Moi, je te parle des journalistes. Des gens qui font ce métier de journaliste dans la presse féminine aujourd'hui, comment ils peuvent survivre à ça, quoi? À la mort de la presse féminine?
Eh bien, je ne sais. C'est une bonne question et c'est une question que beaucoup de copines se posent actuellement. Moi, mes potes, hein, qui me disent. Qui ne voient pas d'issue, en fait, au truc et qui. Elles savent pas parce qu'elles me disent souvent, elles me disent oui, ben toi t'as su utiliser Instagram rapidement. Moi, le truc c'est que je me suis pas posé cette question-là quand j'ai commencé à utiliser Instagram, j'ai pas vu
l'opportunité. Ouais.
Ben non. Et elles me disent maintenant c'est trop tard. Moi je pense pas que ce soit
trop tard.
Voilà, c'est jamais trop tard pour faire des choses. Il y a mille et un. Tu peux faire des trucs. Moi je crois vachement. Alors je me plante peut-être à la newsletter, au retour de la newsletter et tout ça. Je pense que les gens vont y revenir. Je sais pas pourquoi. Tu peux faire ça. Enfin, c'est des filles qui ont quand même beaucoup d'expérience, qui ont une expertise. Il y a moyen quand même de... Faut pas mettre tout ça à la poubelle. Mais il faut utiliser les outils d'aujourd'hui, en fait.
À disposition. Ouais.
Mais oui.
En plus, c'est gratuit.
Mais oui. Mais c'est pareil. Faut se mettre un petit coup de pied au cul, en fait.
Ouais, il faut sortir de sa zone de confort, clairement.
Ouais. Sinon, c'est... Après, tu sais, j'ai beaucoup de potes qui veulent profiter de ce truc-là aussi pour faire complètement autre chose, qui en ont ras-le-bol de ce métier-là, qui sont un peu dégoûtés, tu vois, qui veulent faire un truc qui n'a rien à voir avec ça, partir à la campagne. Il y en a une autre qui m'a dit, je vais lancer un truc, une marque de je sais plus quoi, mais rien à voir avec... Enfin, tu vois, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour elles, parce que mes potes, elles ont mon âge, donc elles ont...
40 piges, ouais.
Entre 40 et 45 ans, tu vois. Donc, c'est le bon moment aussi pour amorcer un nouveau virage et une nouvelle vie professionnelle. Pourquoi pas, Mais en même temps, on aura toujours besoin de journalistes.
Ouais, c'est clair.
Pas
d'une manière ou d'une autre.
Voilà, sur les autres réseaux, mais t'auras toujours besoin.
Pour faire découvrir des gens et faire des investigations.
Ouais, donc il y a quand même... Mais bon, on est dans une drôle de période. On est dans une drôle de période, mais moi, je dis souvent mais que c'est intéressant et c'est hyper excitant, en fait.
Mais moi, je trouve que c'est une période hyper excitante.
Ah ouais, vraiment. Ouais. Et je trouve que les cartes sont rebattues. Je trouve ça hyper intéressant d'être là, en ce moment, et de voir ce qui va se passer et comment... Et j'y crois, je crois...
Ça sera pour le meilleur.
Ouais, je pense qu'il peut se passer beaucoup de belles choses. Voilà. Faut juste avoir... La curiosité et l'ouverture d'esprit nécessaire pour se réinventer. Voilà.
Très bien. Je te propose qu'on termine sur ces bons mots parce que c'était vachement bien comme conclusion.
Bah écoute, je suis ravie de. J'ai beaucoup parlé. Hein,
une heure et demie, c'est pas mal.
Ça y est, je suis à la bourre. Voilà, je vais être à la bourre pour mon prochain.
Merde, je te lâche.
Bon, c'était très chouette.
Dernière question quand même, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Toute personne confondue.
Vivante.
Vivante. Non, mais j'ai le droit de prendre des personnalités pas françaises.
Bien sûr.
Oui. Eh ben, j'aimerais bien que tu ailles interviewer, par exemple, Alison Loenis, qui est celle qui a repris Net-à-Porter derrière Nathalie. Parce qu'Alison, elle est hyper intéressante aussi. Et je trouve que ce qui se passe en ce moment sur les plateformes de vente en ligne, de luxe, etc., ça a beaucoup évolué. Parce que depuis le début de Net-à-Porter, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, tout le monde est obligé de se réinventer aussi. Donc, elle, je l'aime bien et je l'écouterai avec plaisir. Qui d'autre? Attends, je vais essayer de te trouver quelqu'un. Ah, j'aimerais bien que tu fasses Alexandre de Bétac.
Moi aussi,
que j'adore. Ouais. Et je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir dans le confinement. Et pendant le confinement, il a participé à un live avec Jean-Charles de Castelbajac. Jean-Charles de Castelbajac, super intéressant aussi. Et Alexandre, il aurait, je pense, énormément de choses à te raconter hyper intéressantes sur comment l'industrie de la mode...
doit se réinventer.
Ouais, ouais. Et je trouve que voilà, lui, je l'adore et je l'écoute toujours avec bonheur. Jean-Charles aussi. Qui d'autre? Bah, tu pourrais faire Karine, elle a beaucoup de choses à raconter aussi, Karine.
Karine Rottweiler. Bah, je compte sur toi pour des petites intros.
Ah ouais, mais ça, tu sais, c'est très cher.
Va falloir. Ça va coûter très cher. Très bien.
Et puis aussi, parce que là, je te parle de personnes connues, mais aussi donner la parole aux marques comme toi. C'est-à-dire des jeunes marques.
Bien sûr.
Je trouve ça hyper inspirant aussi, en fait, de les écouter.
Bien sûr.
Et fait Miss Maggie, elle est bien et je pense qu'elle va inspirer beaucoup de personnes une reconversion ou elle est la preuve vivante que tu peux te
réinventer.
Ouais, te réinventer, avoir une autre vie dans tous les domaines. Et elle en est la preuve et c'est réussi. Donc voilà. Voilà. Mais si je pense à d'autres personnes, je t'enverrai un petit mail.
Ça marche. Merci beaucoup, Peggy. À bientôt. Bon,
au revoir tout le monde.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.